Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 18h08, merci d'être à l'écoute de ce grand journal avec Fabienne Lemoyle pour vous informer. En Irak, le pape a plaidé encore ce matin pour la liberté de conscience et évidemment pour la liberté religieuse.
Jean-Sébastien Soldaini, vous suiviez cette visite historique de François en Irak qui vient de célébrer sa première messe publique à Bagdad dans la cathédrale chaldéenne Saint-Joseph.
Une messe de quasiment 2 heures où les fidèles passent d'une langue à l'autre. Alléluia en arabe, Sanctus en chaldéen. Le pape, lui, prononce son homélie en italien et semble se tourner vers les chrétiens revenus vivre en Irak, ceux qui ont retrouvé leur maison entièrement détruite.
Pour le monde, ceux qui ont peu de choses sont rejetés et ceux qui ont le plus sont privilégiés. Pas pour Dieu. Celui qui a le plus de pouvoir est soumis à un examen rigoureux, tandis que les plus petits sont les privilégiés de Dieu.
Devant lui, au premier rang, une jeune fille tient un dessin, un clocher et un minaret qui s'enlacent. C'est comme ça qu'est décrite la rencontre matinale du pape François avec l'ayatollah Sistani, plus haute autorité chiite du pays, rencontre à huis clos de 2 hommes assis simplement dans le coin d'une salle au mur blanc. C'est ce que montre une photo. Hormis cela, rien n'a vraiment filtré de leurs 50 minutes de tête à tête placées sous le signe de la réconciliation entre les chrétiens et les musulmans d'Irak.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Et demain, autre temps fort de ce voyage sous très haute sécurité, le pape François qui sera à Mossoul, cette ville marquée par les combats contre l'État islamique où al-Baghdadi avait proclamé le califat en 2015.
Oui, on revient en France et on se souvient de cette polémique très récente hein, quand la mairie de Lyon avait annoncé la mise en place d'un seul menu végétarien à la cantine, jugeant que cela faciliterait le service avec la crise sanitaire.
Et pour aller au-delà de la polémique, Greenpeace a réalisé sa propre mesure d'impact sur l'une des mesures de la future loi climat, à savoir l'introduction d'un menu végétarien dans la restauration collective publique. Virginie Riva.
Dans sa future loi climat, le gouvernement souhaite expérimenter les menus végétariens, mais uniquement pour les collectivités territoriales. Pas suffisant pour Greenpeace, qui a enquêté. Pour l'ONG, le constat est clair. Si le gouvernement est plus ambitieux, en retenant l'option de la Convention climat, à savoir le menu végétarien obligatoire pour toute la restauration collective publique, l'impact sur l'environnement pourrait être majeur.
Si la mesure restait telle quelle, à peine 15% des repas seraient concernés. On arriverait à 0,14 millions de tonnes d'équivalent carbone économisés. Nous, on a refait le calcul en imaginant que cette mesure, elle était appliquée à l'ensemble de la restauration collective publique de façon volontaire. Et là, on arrive à un impact carbone qui est 5 à 10 fois supérieur. C'est-à-dire qu'on arrive à dépasser le million de tonnes d'équivalent CO2 économisé.
Le gouvernement affirme qu'aller trop vite sur les menus végétariens pose des questions en termes de faisabilité, notamment pour les petites communes et d'acceptation sociale. Greenpeace montre dans son étude que plus de 200 communes et des dizaines de structures proposent déjà une option végétarienne quotidienne, hôpitaux, écoles, prisons, sans que cela ne représente de coûts supplémentaires.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Et puis on va terminer avec une scène culturelle, une scène de vie et de joie qu'on n'imaginait plus vraiment possible avec la pandémie.
Oui, c'était hier soir à Tel Aviv, en Israël. 500 personnes réunies pour un concert, scène possible grâce à la campagne de vaccination massive dans le pays, Damien Mestre.
Oui, et d'ailleurs, pour en être à ce concert du chanteur Ivry Leader, il fallait fournir un justificatif qui prouve que l'on a bien reçu les 2 doses du vaccin Pfizer. En plus de ça, le concert avait lieu en plein air, public assis dans un stade au gradin très clairsemé, 500 personnes à peine, vous l'avez dit. Ce n'est donc pas non plus la grande fête comme dans le monde d'avant, et pourtant, ça a déjà le goût de la liberté retrouvée pour les Israéliens. Écoutez, Julien, encore tout ému par ce concert.
On s'est retrouvé avec plein d'autres amis et personne vraiment n'est allé pour voir l'artiste qui se produisait, mais tout le monde y est allé plutôt par envie d'assister à un concert, envie d'être avec beaucoup de monde. On avait l'impression de se retrouver tous comme si on ne s'était pas vu depuis très longtemps. Moi j'ai eu franchement des frissons et pratiquement les larmes aux yeux lorsque ça a commencé, tellement qu'on a attendu ce moment depuis très longtemps, parce qu'il faut comprendre qu'en Israël, le monde de la culture est à l'arrêt total depuis mars 2020.
Non, sans doute cet événement est donc aussi un joli coup de com' pour la mairie de Tel Aviv. Les places sont parties en quelques minutes à peine. C'est le premier d'une série de 4 concerts dans un pays où plus de la moitié de la population est vaccinée. Et le maire de la ville l'a déjà promis. Bientôt, le stade et ses 30 000 places pourront être à nouveau totalement remplies.
Damien Mestre.
Oui, alors que quelques intermittents en colère, nos artistes français étaient réunis aujourd'hui encore devant le théâtre de l'Odéon à Paris pour demander, solliciter la même chose. On parlera d'ailleurs du pass sanitaire tout à l'heure à 18h30 avec les grandes voix d'Europe 1. Merci beaucoup Fabienne Lemoyle. À demain, midi, pour Europe Midi. Et Valérie Darmon nous fait un petit point météo bien froide. Hein. Ce sera beau, cela dit, demain au nord en particulier, Valérie Darmon.
Effectivement, sur un petit tiers nord, la journée s'annonce largement ensoleillée après dissipation de la grisaille et des gelées du matin. En marge de cet axe de la région Poitou-Charentes vers le massif Vosgien à peu près, le ciel sera variable, alternant entre passages nuageux et très belles éclaircies. Plus au sud, les nuages dominent toujours tout au long de la journée. Il pleuvra même par endroits et il neigera au-delà de 1200 mètres sur les Alpes et le massif central, 1006 sur les Pyrénées. Les pluies sont plus soutenues aussi du Languedoc-Roussillon au sud du massif central. Seule la région PACA et la Corse bénéficient de conditions un peu plus clémentes. Les averses sont plus rares et les éclaircies arrivent à percer par moments. Les gelées sont toujours généralisées sur la moitié nord de la France, comprises entre 0 et moins 4 degrés côté température, entre 4 et 7 sur le sud, entre 8 et 10 sur le pourtour méditerranéen ainsi que sur l'île de Beauté. Les maximales seront comprises entre 7 et 11 sur le nord du pays, entre 10 et 15 sur le sud.
Merci Valérie. Voici l'actu sportive. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Avec le foot d'abord en ce samedi 16e de finale de la Coupe de France et un exploit majuscule pour un club historique.
Absolument, il y a 100 ans, en 1921, le Red Star remportait sa première Coupe de France, anniversaire dignement fêté. Le club francilien de 3e division a sorti Lens, 5e de Ligue 1, au terme d'un match fou, 3 buts à 2, et avec des supporters, hein, vous les avez entendus, qui s'étaient massés juste derrière les grillages.
Bah oui, les pauvres.
Parce qu'ils n'ont pas le droit d'entrer, hein, c'est huis clos normalement. Voilà, ouais. Du vétuste et très attachant. Stade Bauer, le Red Star, donc pour l'instant, vedette de ces 16e de finale. Les autres qualifiés de l'après-midi, Montpellier qui s'impose à Alès, 2 buts à 1, Sedan également qualifié, tout comme sans doute Metz et Saumur qui mènent largement à 10 minutes de la fin de leur match respectif. Et puis Lorient est en grande difficulté au Puy-en-Velay, club de 4e division, c'est le Puy qui mène 1 à 0 à 5 minutes de la fin. Et puis dans une demi-heure, Lyon va recevoir Sochaux.
Et ce soir, c'est le PSG qui se déplace à Brest.
Oui, on pourrait croire les Parisiens davantage concentrés sur leur 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Barcelone mercredi prochain. Eh bien, pas du tout. Écoutez l'entraîneur Mauricio Pochettino, il prend cette qualification très à cœur.
Surtout, donner le valeur à la Coupe de France.
Il faut surtout donner toute sa valeur à la Coupe de France. C'est une belle compétition avec tous les clubs du pays. Il faut donner sa valeur à un match comme celui-ci, faire comprendre aux joueurs que la Coupe est importante. Brest va opposer une forte résistance et gagner contre Brest, c'est la meilleure manière de préparer le match contre Barcelone.
Voilà Mauricio Pochettino avec Simon Rubin qui sera à Brest ce soir, avec Julien Froment d'ailleurs également pour commenter ce match. On rappelle que le Paris Saint-Germain détient le record du nombre de victoires en Coupe de France, 13. Ça veut aussi dire pourquoi Pochettino est attaché à cette compétition. Rendez-vous tout à l'heure dans Europe 1 Sport donc pour suivre ce match. Le coup d'envoi, un horaire un petit peu inhabituel, 21h10. C'est pour ça qu'on sera en direct avec vous jusqu'à 23h30.
Très bien, merci de le préciser. Magnifique performance également à la une en biathlon.
Oui, il s'appelle Simon Détieux, il a 29 ans. Jusqu'à présent, il vivait dans l'ombre des Martin Fourcade et autres Quentin Fillon-Maillet. Il n'avait jamais remporté la moindre victoire en Coupe du Monde. Et bien voilà, c'est chose faite depuis cet après-midi en République tchèque. À Novo Mesto, Simon Détieux, vainqueur du sprint. La victoire de la patience, en quelque sorte. Écoutez-le au micro d'Axel May.
Ces dernières années, la première place a beaucoup été prise par Martin ou Johannes. Les opportunités qu'ils ont laissées, elles n'ont pas été souvent là. Donc, il faut encore tomber sur le jour où nous, ça marche bien. Et c'est la complexité un peu de notre sport, c'est d'arriver à tout empiler. Et un peu de réussite, forcément, que ce soit au Mondiaux ou là, j'ai un peu de réussite. Parce qu'à 2 secondes près, ben, ou à 5 secondes près, mes courses ne sont pas du tout les mêmes. Moi, je fais 4e, donc rien à voir, quoi.
Voilà, ça se joue à pas grand-chose. Simon Détieux, il a payé pour le savoir. Quelques mots encore de cyclisme. Pas de victoire, mais une belle deuxième place pour Julien Alaphilippe sur les Strade Bianche et les rues blanches. C'est une classique d'un jour qui se déroule en Italie, en Toscane. Paysage magnifique à côté de Sienne. La victoire pour le Néerlandais Mathieu Van Der Poel et Egan Bernal est 3e. C'était une course très relevée. Enfin, rugby, le premier match de la 18e journée du top 14. Toulouse a battu largement Brive 42 à 17.
Voilà, on voyage aussi avec vous pour les sports.
Merci.
Et à tout à l'heure, 19h10, Jean-François Pérez. Merci.
Europe Soir Weekend.
Petite pause et on se retrouve avec un médecin et une infirmière sur le pont pour vacciner ce week-end, conformément à l'accélération souhaitée par Olivier Véran. Mais au-delà du coup de com', comment conserver la cadence? Que disent-ils aujourd'hui de cette opération aussi logistique et plus globalement du taux de vaccinés en France? A tout de suite sur Europe 1 avec Jean-Paul Hamon et Lysiane Dias.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Merci d'écouter Europe 1, 18h20, nous sommes le samedi 6 mars et Jean Castex a de nouveau annoncé la couleur du moment. Il faut mettre le paquet sur la vaccination en mars et en avril. Opération accélération ce week-end. Bonsoir docteur Jean-Paul Hamon.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous aviez un certain nombre de rendez-vous prévus dans votre cabinet et donc vous vous êtes adapté à cette urgence revendiquée pour vous aussi, vacciné ce samedi, Jean-Paul Hamon.
Oui, oui, absolument. Alors nous, on a dans notre cabinet, moi j'ai vacciné jeudi et vendredi avec de l'AstraZeneca.
Oui.
Et puis, comme l'ARS a sollicité le centre de vaccination de Clamart au dernier moment en disant qu'ils auraient 1800 doses à mettre à disposition pour le week-end, donc on s'est organisé avec les médecins, les infirmières et les infirmiers du centre de santé et... On a vacciné que 760 personnes aujourd'hui, mais c'est quand même pas mal. Mais on s'était organisé pour 1800 doses et on a eu la surprise d'apprendre 3 heures après avoir sollicité les médecins qu'on en aurait que 760. Mais on a réussi à mobiliser les médecins et on a fait 760 doses alors que jeudi il y avait rien de prévu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais en même temps ce serait bien que l'ARS nous donne exactement le nombre de doses qu'ils vont nous donner. Ça permettrait de ne pas bosser pour des prunes en permettant aux médecins de venir quoi. Voilà.
C'est ça, vous vous adaptez hein, au quotidien comme tous les autres soignants. Ce ne sont pas des injections qui sont tombées du ciel, hein, Jean-Paul Hamon, il faut rappeler. Ces 400 000 doses du vaccin qui ont été redistribuées et produites par AstraZeneca étaient normalement réservées au personnel soignant. Elles n'ont pas été demandées par ces derniers qui n'ont pas souhaité être vaccinés. Bon, pour les autres citoyens, c'est donc un mal pour un bien, Jean-Paul Hamon ?
Non, mais alors ça, non, c'est encore une autre source qu'on a eue, nous, parce que nous, on a eu du Pfizer.
Mm-hmm.
À Clamart, c'est du Pfizer qui nous a été délivré, et donc, on s'est adapté. On aurait eu de l'AstraZeneca, on n'aurait pas eu de problème, parce que, bon, je pense que les barrières tombent et les inquiétudes que les patients avaient sur l'inefficacité ou sur les effets secondaires. Maintenant, là, on ne rencontre absolument aucune résistance, ou
très
vraiment
bien.
Très, très peu, et les gens sont pro-vaccinés.
Bon, week-end de vaccination de masse à Clamart où vous êtes, dans les Hauts-de-Seine, à Paris, en Ile-de-France d'ailleurs très généralement. Bonsoir Lysiane Dias.
Bonsoir.
Vous, on vous retrouve en duplex du côté de la Bretagne où vous êtes infirmière diplômée d'État et où la cadence n'est pas la même. Hein. Il n'y a pas eu de vaccination dans l'établissement où vous exercez aujourd'hui, Lysiane Dias.
Alors non, il n'y a pas eu de vaccination pour le moment, en tout cas. Pas proposée, elle a été proposée aux patients, mais c'est très compliqué d'obtenir des doses en termes logistiques et aussi par rapport justement aux doses qui sont délivrées au compte-gouttes.
Oui.
Donc il s'agirait en fait d'établir le nombre de patients volontaires qui seraient présents hospitalisés en fait pour avoir les deux doses en fait. Donc ça réduit beaucoup le nombre de patients susceptibles d'être vaccinés durant leur hospitalisation. Donc la plupart du temps, on les renvoie aussi tout simplement vers leur médecin spécialiste ou leur médecin traitant pour être vaccinés. Quand nous, on est confrontés au fait de devoir faire des statistiques sur qui serait susceptible
c'est
d'être
ça.
Vacciné durant cette période
ouais.
d'hospitalisation, etc. pour commander les doses, c'est extrêmement compliqué.
Statistiques et logistiques, on a compris, un peu complexes à gérer. Vous avez 27 ans, vous êtes habilité comme infirmière à vacciner, donc vous pouvez le faire. L'avez-vous déjà fait, Lysiane Dias ?
Alors, j'ai déjà vacciné des patients pour pas mal de choses, mais pas pour
pas
le
pour
Covid.
Pas pour le Covid, très bien, mais vous pouvez le faire. Hein. Vous êtes réquisitionné. Vous-même, avez-vous été vaccinée comme soignante et comme infirmière ?
Alors oui, je l'ai été. Ça s'est fait vraiment... C'était vraiment un concours de circonstances, c'est-à-dire que je faisais partie des gens... en fait, qui acceptait d'être vaccinée,
oui.
parce que mon employeur m'a demandé si je souhaiterais être vaccinée quand ce sera possible pour moi, n'ayant pas de comorbidité et n'étant pas âgée de plus de 50 ans. Voilà. Et puis, nous, on a eu les doses Pfizer, en fait. Donc, mes collègues qui répondaient aux critères de vaccination se sont inscrits sur les listes. Et puis, le soir, un pot Pfizer avait été ouvert avec plusieurs doses. Et comme il en restait quelques-unes, on a proposé aux soignants qui avaient dit oui pour être vaccinés, qui étaient encore présents, s'ils souhaitaient du coup consommer cette dose plutôt qu'elle ne soit jetée.
Bon,
donc j'ai été vaccinée dans ce contexte-là pour éviter le gâchis d'une dose.
Je comprends, mais c'est bien, vous le souhaitiez, vous étiez volontaire, alors que 30% des soignants en dehors des EHPAD sont vaccinés aujourd'hui, et ça ne suffit pas, a dit et redit Olivier Véran. On va vous entendre là-dessus, Lysiane Dias, mais Jean-Paul Hamon, une fois de plus, que dites-vous aux confrères qui ne le souhaitent pas, qui en avaient le droit de ne pas le souhaiter, mais sont-ils pour vous irresponsables à ce moment de la pandémie, Jean-Paul Hamon ?
Écoutez, là, je pense que les 25% de soignants qui seraient seulement vaccinés, je pense que c'est un chiffre qui est totalement faux. Hein. En gros, il y a la même résistance à la vaccination que dans le reste de la population, c'est-à-dire entre 15 et 20%. Moi, ce que je voudrais souligner sur le plan logistique, c'est que l'ARS et la Direction Générale de la Santé, ils ont quand même beaucoup de progrès à faire pour la logistique, parce que c'est inadmissible de prévenir à 13h un jeudi pour dire qu'on va avoir 1800 doses et de n'en délivrer que 760 trois heures plus tard, alors que les médecins, les infirmières, les médecins libéraux, les infirmières libérales s'étaient mobilisés pour ce samedi et ce dimanche. Donc ça, d'un côté, et d'autre part, pour la vaccination dans les cabinets médicaux, ce qui est absolument inacceptable, c'est qu'on ne sache pas au moins une semaine à l'avance, combien de doses on va avoir. Il est hors de question pour nous de prendre 20 ou 30 rendez-vous à nos cabinets, de bloquer une plage, une matinée ou une après-midi entière pour vacciner, et être au dernier moment, être obligé d'annuler.
Bien sûr.
C'est inacceptable.
Ouais. Il y a un problème de fluidité dans cette démarche. Et de simplification.
Fluidité, organisation, si vous voulez. Ce serait bien que la Direction Générale de la Santé, il y ait un peu de ménage qui soit fait, parce que franchement, là, ça fait un moment que ça dure. Il y a eu les tests, il y a eu les masques, et là, maintenant, il y a la distribution des vaccins, et ça, c'est totalement inacceptable.
Oui, c'est ce que vous dites aussi.
Pour les médecins qui se vaccinent pas...
Allez-y, Jean-Paul.
Allez-y.
Allez-y, répondez-moi
sur les
médecins.
Pour les médecins, les infirmières, et les aides-soignantes qui se vaccinent pas, écoutez, je pense que la proportion, elle est pas supérieure au reste de la population en France. Hein. Il y a à peu près 15-20% de personnes.
Oui, sauf qu'on a quand même ces 400 000 doses qui reviennent sur le marché, hein, qui étaient dans les frigos, qui étaient à destination de ces soignants-là, qui n'en ont pas voulu. Donc on est dans la proportion qui n'a pas été manifestement inventée, qui est tangible sur ces chiffres, Jean-Paul Hamon.
Non, mais il y a autre chose, c'est-à-dire que les vaccins, les hôpitaux disposent de vaccins Pfizer depuis un moment.
Oui.
Il faut le savoir. Donc il y a déjà une partie de la population médicale et paramédicale qui a été vaccinée. Les vaccins qui restaient, moi j'ai des patients qui ont été convoqués à l'hôpital pour être vaccinés. Donc ils continuent de vacciner les gens qu'ils connaissent et qui sont passés à l'hôpital. Ils continuent à vacciner des patients. Donc je pense que les 75% de vaccins qui ont été restitués et remis dans le circuit, ils ne concerneraient pas exclusivement que les personnels soignants.
D'accord, on reste aussi sur cette perception et ces chiffres-là. Lysiane Dias, c'est trop facile pour vous de rejeter la faute sur les soignants aujourd'hui dans cette difficulté de vaccination, d'où l'accélération du moment ?
Bien sûr, c'est un petit peu trop facile de dire que les soignants ne suivent pas derrière. Hein. Je rejoins le médecin Jean-Paul Hamon qui nous dit que tout simplement, nous on s'organise, preuve en est. Hein.
Oui.
De son côté, il a sollicité pas mal de consoeurs, confrères et également des collègues infirmières. Et c'est vrai que nous, quand on nous dit les choses, on est prêt à se mobiliser, preuve en est justement par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Maintenant, c'est vrai que nous, sur les terrains, on constate pas forcément de moyens humains vraiment effectifs pour faire face à cette crise. Et là, on n'est pas que sûr de la vaccination. Enfin, voilà, quand j'entends Olivier Véran qui, le 18 novembre, nous disait sortir totalement du dogme de la réduction des lits, désolé, mais nous,
attention,
on voit pas la couleur.
Attention à la communication du week-end. Vous n'êtes dupe ni l'un ni l'autre. Je note une réaction, notamment sur Twitter. Sylvie est infirmière à Paris. Elle écrit que dans son service, pendant la pause, ils vont voter pour un absentéisme massif en représailles à la vaccination si elle devenait obligatoire. Si Olivier Véran veut la guerre, il l'aura. Vous êtes de ceux, docteur Jean-Paul Hamon, qui souhaitent quand même apaiser le débat pour le bien collectif, pour le coup.
Bon, écoutez, ce serait pas un scandale si la vaccination était obligatoire pour les soignants en cette période. C'est pas normal que la Covid soit la principale cause de maladie nosocomiale quand on est dans un établissement. C'est vrai que nous, on a été vaccinés. Je rappelle que les professionnels de santé, ils sont tous vaccinés contre l'hépatite B à une époque où il y avait une grosse polémique sur l'hépatite B qui était soi-disant responsable de la sclérose en plaques, souvenez-vous.
Absolument.
Or, il n'y a pas eu, nous, on l'a fait fait sans état d'âme. On a été vacciné, on a accepté cette vaccination obligatoire parce qu'il y avait quand même un petit risque quand on manipule des seringues, etc. Et il n'y a pas eu plus de cas de sclérose en plaques chez les soignants. Donc on sait prendre nos responsabilités, bon, que ce soit Pfizer ou AstraZeneca. C'est vrai qu'on a observé davantage d'effets secondaires chez AstraZeneca chez les personnes jeunes. Il y en a pas personnellement là. Moi, j'ai vacciné maintenant 50-60 personnes depuis le début de la semaine dernière. J'ai pas observé de cas avec AstraZeneca. Je leur donne systématiquement du paracétamol pendant deux jours et ça se passe bien.
Et maintenant qu'on a les doses, il ne serait pas indigent que les soignants soient obligés de se faire vacciner. Vous qui revendiquez aussi avec Lysiane Dias une meilleure organisation, une simplification du processus de vaccination, docteur Jean-Paul Hamon. Merci à tous les deux pour cet échange sur Europe.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et si vous nous rejoignez seulement 18h31, c'est le Fil Info. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. 220 000 Français ont été vaccinés aujourd'hui en France, plus du double de samedi dernier. Chiffre annoncé par Olivier Véran sur Twitter ce soir, le ministre de la Santé qui affirme que demain, on continue selon ses mots. Le gouvernement a décidé de donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination. Jean Castex a promis de mettre le paquet. La visite du pape en Irak, le souverain pontife a célébré en fin de journée sa première messe publique dans le pays. En l'église Saint-Joseph à Bagdad, ce matin, il s'est entretenu avec le grand ayatollah Ali Sistani qui a fait part de son engagement pour la paix et la sécurité des chrétiens d'Irak. Une aide d'urgence aux éleveurs sévèrement impactés par la crise, 60 millions d'euros. Une enveloppe qui sera distribuée à ceux qui ont gagné moins de 11 000 euros l'année dernière. 18 000 exploitations sont concernées. Autre annonce, le gouvernement ne débranchera pas les aides au secteur de la restauration lorsque celui-ci pourra rouvrir. Une ouverture encore à horizon indéterminé. Terminé, a précisé le Premier ministre. Premier week-end confiné pour le Pas-de-Calais. 4 week-ends sont prévus pour ralentir la progression des contaminations. La police a fait évacuer cet après-midi les quais de Seine à Paris, ainsi que le canal Saint-Martin. Les Parisiens sortis en masse pour profiter du soleil ne respectaient pas les gestes barrières. Et puis en football, les 16e de finale de la Coupe de France et Lorient, club de Ligue 1, est éliminé en 16e, donc éliminé dans ces 16e de finale par les Auvergnats du Puy-le-Puy, équipe de 4e division.
Merci Sophie, tu sois tout à l'heure. 19h, Valérie Darmon, c'est un dimanche froid et contrasté qui nous attend.
Au programme, donc quelques brumes toujours sur le nord et des gelées marquées avant le retour du soleil dès son lever pour la journée. En revanche, au sud, le temps sera toujours un peu plus instable avec donc de l'instabilité pluvieuse, un temps humide qui pourrait s'étendre à tout le quart sud-est d'ici ce dimanche soir. Le ressenti au vent sera hivernal, entre 0 et moins 2 degrés au nord. En ce dimanche matin, elles s'accentueront encore, ces valeurs, en baisse hein, d'ailleurs pour l'après-midi, entre 6 en Lorraine et 14 à 15 près de la Méditerranée, en moyenne 4 degrés inférieurs au normal de saison.
Europe Soir Weekend.
A tout de suite avec les grandes voix d'Europe 1, Frédéric Dabi, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet sont avec nous ce soir. Comment rattraper le temps perdu sur la vaccination? Le gouvernement peut-il durablement corriger le tir? On parlera aussi de l'opération médiatique de Nicolas Sarkozy et des lus, vus et entendus de nos débatteurs.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, les grandes voix.
Les grandes voix du samedi en débat jusqu'à 19h. Laetitia Krupa, journaliste politique, est avec nous. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de communication politique, président de MCBG Conseil également. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Wendy.
Bonsoir Wendy.
Bonsoir
à tous.
Wendy.
Le gouvernement s'emploie ce week-end à rattraper le retard en matière de vaccination. On en parlait à l'instant. Il met aussi la pression sur les soignants. Opération tous azimuts, doses débloquées en urgence. L'action, la communication pour tenir un objectif ambitieux. 30 millions de Français avant l'été, on va y venir. À la une aussi, l'offensive judiciaire de Nicolas Sarkozy, la télévision comme outil du tribunal à la tribune. Nous parlerons aussi dans ce paysage politique au sens très large d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen.
Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les agences régionales de santé ont diffusé le message venu du gouvernement. Coup d'accélérateur pour la vaccination ce week-end à Paris, en Ile-de-France. Nous étions dans les Hauts-de-Seine il y a un instant avec le docteur Jean-Paul Hamon. Le gouvernement qui ressort l'artillerie lourde pour nous montrer que la cadence s'accélère. Alors on a les doses AstraZeneca, on a le déblocage de 50 000 doses en France de Pfizer. Laetitia, tout ça semble bien rodé. En tout cas, les projecteurs sont braqués sur cette opération ce week-end très clairement.
J'ai envie de vous répondre, Wendy, avec une phrase. Vous êtes gentille, hein, mais tant qu'il y a des vaccins dans le frigo, je ne reconfinerai pas les gens.
Ça me dit quelque chose, ça. C'est Emmanuel Macron, très en colère.
Emmanuel Macron, oui. C'est la phrase peut-être la plus importante de la semaine, alors qu'elle est dite en off, censément être en off, c'est-à-dire qu'elle est dans l'intimité du Conseil de défense sanitaire. Il faut expliquer effectivement aux auditeurs que off se dit off the record, ça veut dire qu'il n'y a pas de journaliste, mais que l'information fuite ensuite, c'est-à-dire que c'est une information BFM qui a été reprise par tous les médias.
Oui.
C'est donc la posture d'Emmanuel Macron qui est très claire, c'est-à-dire qu'il va contre la doxa médicale et qu'il ne veut pas reconfiner parce qu'il met l'accent sur la campagne de vaccination. À partir du moment où on change de doctrine, bien sûr qu'en communication, en termes d'image, il faut le montrer. Mmh. Il faut que les Français comprennent que non, finalement, la campagne n'est pas au ralenti puisqu'il y a énormément de critiques sur cette campagne de vaccination à juste titre. Si on regarde quantitativement le nombre de Français vaccinés, c'est vrai que c'est quand même, pour l'instant, on est à la traîne.
La difficulté d'obtenir un rendez-vous vaccinal. Ouais.
Voilà, donc ce week-end, déploiement sur le terrain de ministres, images à gogo pour montrer que c'est cette politique-là qu'on a choisie.
Oui, mais pardon, ne demandez que ça, que le calendrier s'accélère.
J'allais vous le dire, on est en concordance parfaite avec les attentes très exigeantes de l'opinion publique, quelque soit la catégorie d'âge. On a reposé la question d'intention de vaccination. Wendy, ça a monté de 8 points. L'opinion publique est prête. Elle veut, elle se dit, elle a compris que la vaccination, c'est le sésame et le retour à une vie normale. C'est ce qui explique ce qu'on se disait la semaine dernière sur ce pass vaccinal, alors qu'on est ce pass sanitaire, ce passeport, alors qu'on n'est pas du tout dans le tempo, mais cette entrée dans l'agenda politico-médiatique. Et il y a presque un Français sur deux qui est favorable. Donc l'opinion publique a bougé, l'opinion publique est prête. Et c'est clair que, plus que jamais, le gouvernement a un risque réel d'opinion si cette lenteur, si cette torpeur, si ces dysfonctionnements en termes de prise de rendez-vous. On a vu Emmanuel Macron, dans nos enquêtes récentes, progresser chez les jeunes et être en difficulté réelle dans sa base, oui. Chez les personnes âgées. Pour la première fois depuis longtemps, il était en dessous chez les vieux par rapport aux chez les personnes âgées, pardon. Soyons polis, parce qu'on est tous le vieux de quelqu'un. On est tous le vieux de quelqu'un. On a vraiment vu que l'opinion publique est prête. Et je pense que la phrase en off, comme le dit Laetitia Emmanuel Macron, peut faire sens chez les Français et peut réactiver l'acte lourd d'il y a maintenant 5 semaines, ce refus du reconfinement qui a largement bénéficié à l'exécutif, quand bien même la gestion de la crise sanitaire, pas la gestion économique, mais la gestion sanitaire et vaccinale, n'est soutenue que par à peine un gros tiers des Français.
Ces doses qui sont dans le frigo, il en parlait chez Jean-Jacques Bourdin, Olivier Véran, vous allez réagir juste après Philippe Moreau-Chevrolet.
Il y a 400 000 doses du vaccin AstraZeneca livrées aux hôpitaux pour vacciner les soignants, qui sont prioritaires, mais aussi les pompiers, les ambulanciers, les aides à domicile, et que ces doses n'ont toujours pas trouvé preneur suffisamment vite.
Bon, voilà, c'est un mal pour un bien. On récupère ce qui devait être attribué aux soignants pour quelques citoyens, 400 000, qui n'en pouvaient plus d'attendre, Philippe Moreau-Chevrolet.
Oui, alors c'est une situation assez particulière, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas assez de doses de vaccins pour vacciner à la hauteur de ce qu'on voudrait. Contrairement à Israël, par exemple, à d'autres pays qui sont cités en exemple, on n'a quasiment pas de ressources, enfin, on n'a pas tellement de matelas qui seraient confortables derrière. Donc ça, c'est un premier problème. On n'a pas négocié suffisamment de doses au niveau européen. Donc effectivement, on répartit la pénurie différemment. Après, il y a deux façons de voir les choses. Soit on est optimiste et on considère que ça y est, le gouvernement se réveille enfin pour vacciner et donc il part dans la bonne direction.
Oui.
Soit on est comme Laurent Alexandre aujourd'hui sur Twitter qui disait « c'est la vaccination escargot, on est la lanterne rouge de l'Europe ». Ce qui est vrai, en termes de chiffres, on est très loin derrière les voisins, même si tout ça se tient dans un mouchoir de poche. Donc il y a plusieurs façons de voir les choses. L'exaspération de la population, c'est une exaspération pour le retour à la vie normale, entre guillemets. Et chaque jour en fait où l'exécutif donne l'impression de ne pas savoir comment y arriver ou de ne pas y arriver tout court est un jour qui coûte cher en fait pour tout le monde, pour le pays, mais aussi pour l'exécutif. Je voudrais revenir sur la petite phrase de Macron.
Oui.
Elle est quand même très très étonnante, cette petite phrase. Parce qu'il a dit quoi ? Il a dit, tant que les vaccins seront au frigo, ben moi je ne confinerai pas, en gros. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, il reproche aux soignants de ne pas aller assez vite, alors qu'on sait tous que ce n'est pas les soignants qui sont en cause dans le retard de la vaccination. Et ça veut dire qu'on va punir les soignants, on va punir les Français parce que il n'y aurait pas assez de vaccination.
Non, en tout cas, on recherche la charge de la responsabilité.
Je pense que de la part d'un chef de l'État en exercice, c'est extrêmement étonnant parce qu'on a l'impression qu'il menace les soignants qui sont en première ligne depuis un an et qui ont eu beaucoup de morts au service de cette cause.
Ouais, alors, comment l'interpréter? J'entends ce que Frédéric Dabi, elle ne s'y a cru pas.
J'entends ce que vous dites, Philippe, mais je ne fais pas la même analyse du tout. Les 400 000 doses restantes, c'est les soignants qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Et alors qu'on a une stratégie claire et une opinion publique qui est extrêmement homogène sur ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire l'intention de se faire vacciner, retrouver la vie normale, ce qui peut être un enclencheur d'optimisme. On voit déjà dans nos enquêtes qualitatives que le pessimisme absolu dont on parlait au mois de janvier, est-ce que c'est le retour des beaux jours, commence un petit peu à s'effilocher. Mais il y a, je dirais, un véritable brouillage en termes de communication. C'était votre débat tout à l'heure, Wendy.
C'est
avec
ça, voilà.
Ces soignants que les Français aiment, que les Français respectent,
sûr,
que nous avons tous
applaudi.
Mais il y a, je pense, une véritable incompréhension. Et l'exemple qui a été donné par M. Jean-Paul Hamon de l'hépatite B, alors qu'on connaît des risques sur la sclérose en plaques, c'est quand même quelque chose qui ne pourra pas ne pas alerter, voire interloquer l'opinion sur ce refus de se
c'est
faire
sûr.
Vacciner.
Le même docteur Jean-Paul Hamon, qui relativisait largement ce chiffre de 400 000 euros, il avait même l'air de le remettre en perspective et de considérer qu'il n'y en avait pas autant de ces doses qui devaient être attribuées qu'elles arrivent d'autre part. Le tir cru pas. Comment on l'interprète, ce renversement de la charge de la culpabilité sur les soignants? C'est comme ça que certains l'apprennent, en tout cas, cette petite phrase, chez les soignants.
C'est anormal. Alors moi, cette petite phrase, pas du tout. Moi, il me semble que c'est juste pour expliquer que la stratégie du zéro Covid n'a pas été choisie.
C'est ça.
Et qu'aujourd'hui, l'exécutif choisit la vaccination qu'il tente de faire massivement. En tout cas, c'est l'objectif, qu'elle soit massive et que de plus en plus, on ait cette immunité collective. On a bien compris, c'est juste un changement de doctrine. Ça n'a rien à voir avec les soignants. Le poids sur les soignants, ça a été effectivement donné par Olivier Véran jeudi soir, lors de la conférence de presse, et où il a dit quand même à plusieurs reprises qu'effectivement, en tant que soignants, ils avaient une responsabilité, qu'ils ne comprenaient pas que des soignants refusent de se faire vacciner, et qu'en termes d'exemplarité, vous comprenez bien, Wendy, qu'un soignant refusant de se faire vacciner donne quand même un signal très fort, très négatif, aux patients. Enfin, si on ne fait plus confiance à son médecin direct, à son soignant,
si c'est très compliqué. Allez-y.
Oui, sur l'exemplarité, je voudrais quand même, enfin, c'est un tout petit peu l'hôpital qui se moque de la charité quand même. Depuis des mois et des mois et des mois, on demande aux politiques d'être exemplaires. Et jusqu'à très récemment, ils nous expliquaient qu'un dîner de travail dans un lieu clos, sans masque, à plus de 10 personnes, c'était possible. Donc l'exemplarité, elle doit exister partout.
Non, mais l'exemplarité.
Aux soignants de ne pas être exemplaires, alors que des dizaines de soignants sont morts depuis le début de cette crise, qu'ils sont épuisés 24 heures sur 24
mais non, mais
à soigner des gens.
Philippe, pardon de vous dire ça, mais vous êtes un petit peu à côté de la plaque. La logique d'exemplarité, c'est pas une logique entre les patients et le personnel.
Attendez, Frédéric Dabi, allez-y.
Je disais que la logique d'exemplarité, c'est pas une logique homothétique entre celle des soignants et celle du personnel politique. On avait bien parlé de cette absence d'exemplarité du côté du personnel politique. Oui. J'avais évoqué Bonaparte au pont d'Arcole et non pas Gamelin derrière la ligne Maginot. Là, l'exemplarité, c'est vis-à-vis de l'opinion publique. On connaît la confiance qu'ont les Français vis-à-vis des soignants. Il y a bien sûr toute une série de raisons et bien sûr, ça n'empêche pas le sacrifice et les soignants qui ont été au front pendant le premier confinement et pendant le deuxième. Il y a eu plus de morts au deuxième confinement que pendant le premier, mais l'exemplarité, là, il y a vraiment un problème de brouillage et ça pourrait faire hésiter des Français de voir que la première ligne,
concret,
en qui ils ont une confiance absolue, hésite à se faire vacciner. Là est le problème.
D'accord, d'où le plaidoyer, vous allez réagir, Laetitia Krupa. Attendez, Philippe Morangeolet. D'où le plaidoyer, je voudrais vous le faire écouter, de François Chaste sur BFM. Il est président honoraire de l'Académie de pharmacie. Écoutez-le.
Lorsque l'on veut être soignant, on se fait vacciner pour, vous l'avez rappelé, diphtérie, tétanos, polio, tuberculose et hépatite B. Eh bien, on pourrait exiger que pour exercer un métier soignant, il faille être vacciné. On ne pouvait pas l'exiger auparavant, on n'avait pas les vaccins. Maintenant, on les a, il faut y aller.
Pour que la contamination au Covid ne devienne pas, qu'elle est en train de s'installer, la première cause d'infection nosocomiale à l'hôpital. C'est quand même pas possible, ça, Laetitia Krupa.
C'est d'ailleurs sur la table, Wendy, c'est sur la table de l'exécutif, puisque selon les échos, Emmanuel Macron envisagerait de rendre obligatoire la vaccination des soignants. Donc c'est une question qui en tout cas est en train de se poser au sein du pouvoir. Est-ce que oui ou non nous la rendons obligatoire. Et on comprend bien qu'en termes d'image, vous avez raison Frédéric, quand on voit un soignant, mais après ça n'a rien à voir avec leur mettre la culpabilité sur les épaules. Il y a aussi un énorme problème de communication. Si on avait fait cette grande campagne de communication pour expliquer en toute transparence ce qu'était un vaccin, ARN, comment, à quoi ça marchait, en dehors des médias, parce que nous on en discute tout le temps, mais les gens ne sont pas captifs de nous, journalistes, de nos médias, c'est pas vrai. Il fallait une grande campagne publique, d'affichage, des spots télé. Le gouvernement va en lancer un spot télé sur la vaccination, Wendy. Non mais...
Un an après.
Allô, j'ai envie de dire, pour paraphraser.
Oui.
On est au mois de mars, ils vont lancer un spot télé sur la vaccination un an après, mais c'est avant qu'il faut le faire, puisqu'il faut lever la défiance. Il faut, pour lever la défiance, il faut informer. Pour lever la défiance, il faut donner toutes les informations, il faut éclairer le grand public, et ensuite on prend un avis. Sinon, on laisse tous les autres
bien
moyens
sûr,
de s'informer.
Mais il faut tout dire. Il faut tout dire, Philippe Moreau-Chevrolet. Dire aussi qu'aujourd'hui, le vaccin ne prémunit pas d'une contamination d'une personne vers l'autre. Elle amoindrit les effets du Covid. Elle nous empêche d'en mourir, ce qui est quand même énorme. Et à titre individuel, ça n'enlèvera rien à la nécessité de respecter les gestes barrières. C'est pour le bien collectif. Voilà ce qu'a dit Olivier Véran dans un esprit presque républicain, Philippe Moreau-Chevrolet.
Mais sur le fait que la vaccination soit pour le bien collectif, je pense que tout le monde est complètement d'accord. Je pense que les soignants qui se prennent des cas Covid très très lourds depuis le début sont entièrement d'accord avec le fait que effectivement, alors sur la contagiosité, si on est en train de, là il faut avoir quand même conscience des bonnes nouvelles parce qu'on parle beaucoup des mauvaises et c'est un peu une déformation professionnelle quasiment, mais il y a aussi des bonnes nouvelles sur la contagiosité, si le vaccin. On commence à avoir des études qui montrent que le vaccin diminue la contagiosité. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut enlever son masque, mais ça veut dire que les réunions en famille, les gens qui sont vaccinés, surtout les personnes âgées, peuvent commencer à respirer, se sentir mieux et savoir qu'elles ne contamineront pas nécessairement les autres. Les études vont dans ce sens, donc c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Après, sur la vaccination, on a loupé le coche, Laetitia a entièrement raison. Mais il faut savoir qu'au début de la campagne de vaccination, le président de la République était le premier à dire qu'on ne savait pas très bien ce qu'il y avait dans ces vaccins. Donc on est parti du mauvais pied. Alors
oui,
maintenant,
ben,
on va dans l'autre extrême.
On l'a malmené.
C'est très bien. Bravo, fantastique. Après, si la vaccination doit être obligatoire pour les soignants, il y a quelque chose qui s'appelle le pouvoir, qui permet de prendre des décisions, qui permet d'imposer des choses aux gens. C'est mieux que de dire aux Français, regardez ces soignants qui ne veulent pas se faire vacciner comme ils sont lamentables.
C'est sur la table d'Emmanuel Macron.
Voilà.
Oui, campagne.
Qu'il le fasse alors. Oui. Qu'il le fasse et qu'il prenne enfin une décision courageuse, peut-être clivante, il va peut-être perdre 2-3%, mais au moins il aura pris la décision.
La communication, vous en parliez, elle est au cœur aussi évidemment de cette acceptation du vaccin. Ça a été malmené, on a dit les plus de 50 ans, les soignants les plus de 50 ans, donc les plus jeunes n'ont pas été concernés, ils étaient peut-être aussi plus réfractaires à se faire vacciner. Voilà, d'où la complexité aujourd'hui de leur reprocher des choses, parce que on a mal amené sur le sujet.
C'est vrai que ça a été mal, ça a été mal amené. Si on prend toute l'histoire, on se souvient de la première conférence de presse au mois de décembre d'Alain Fischer, qui a surtout mis en avant les effets secondaires ou les inconnus sur le vaccin. On avait parlé de communication à minima, et c'est vrai que de ce point de vue-là, on ne pourra ne pas dire qu'il y a eu un retard à l'allumage. Et je partage complètement la remarque ironique de Laetitia Krupa sur un spot télévision. Quand on voit toutes les capacités des pouvoirs publics à faire beaucoup de campagnes de communication, le retard, on l'a vu aussi sur la Convention citoyenne sur la vaccination, qui était une excellente idée, mais elle a été installée tellement tardivement qu'on a eu l'impression que le pouvoir se défaussait de ses responsabilités. Là, il y a une véritable course contre la montre. D'un côté, les variants sont partout, c'est 57% je crois des contaminations dans toute la France, c'est une information du Parisien de tout à l'heure. De l'autre, il y a ce vaccin qui va permettre peut-être de ralentir les effets et peut-être d'éviter le spectre d'un troisième reconfinement. Pour l'instant, les Français, même s'ils apprécient et soutiennent les confinements locaux, ont toujours dans un coin de leur tête une intériorisation sur un futur troisième confinement.
Oui, en fait, ce qui était intéressant à voir, on va en sourire un petit peu, 2/3 des Français étaient pour les confinements locaux, mais quand il s'agit de leur région, il n'y a plus qu'un Français sur deux, vous voyez. Donc, bon, on est pour le confinement du voisin, mais par contre, chez soi, voilà. Donc, mais non, mais c'est parce que l'acceptabilité, qui est devenue un mot à la mode et qui aurait dû être le mot dès le début du débat, un mot fondamental, elle est en train de s'éroder, ce qui est tout à fait normal, ça fait un an. Donc il faut bien trouver des alternatives.
Oui, on a des mesures à la marge. Hein. Tout à l'heure, les quais de Seine ont été évacuer gentiment, tranquillement. Le préfet Didier Lallement avait prévenu et insisté sur la nécessité de ne pas se regrouper. Ce fut le cas. Voilà, merci pour le point qu'on pouvait faire ce soir sur cette opération coup de com'. Je voudrais, Philippe Moreau-Chevrolet, que vous partagiez un courrier, une mobilisation importante justement au cœur de ce débat sanitaire.
Oui, alors absolument. Alors, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans cette épidémie depuis le début, ce sont les victimes. On ne les voit pas parce que d'abord, on n'a pas pu les montrer, on ne peut pas filmer dans une unité Covid, c'est compliqué. Et puis aussi parce que c'est des morts qui partent très rapidement, au fond, en quelques jours. C'est pas comme le sida, où on avait finalement pu avoir des récits, pu avoir un certain délai entre la maladie et la mort. Là, c'est une maladie extraordinairement brutale et sauvage, donc on n'a pas tellement de récits, de visages, d'humanité. Alors, il y a des associations qui se mobilisent pour essayer d'en restituer qui essayent de demander au président de la République qu'il y ait une journée qui se déroule pour les victimes du Covid. L'Élysée a l'air favorable à ce que ça soit mis en place, ce qui serait une très bonne chose. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de morts en ce moment et depuis le début que depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire que c'est la période où on a le plus de morts en ce moment finalement. On est à 85 000, on va probablement aller vers 100 000, peut-être évidemment malheureusement beaucoup plus. Donc c'est Lionel Petitbas avec son association qui mène ce combat-là pour la journée de mémoriel.
Oui.
Et puis on a une deuxième action qui est menée par l'association Après J20 qui elle concerne les Covid longs. Alors les Covid longs, c'est la maladie chronique, c'est la longue durée. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, ils ont estimé qu'il y aurait environ 1 million de personnes qui seraient durablement atteintes par des séquelles du virus. Alors, c'est pulmonaire, cardiaque, cérébral. C'est très, très invalidant. Ça peut vous empêcher de travailler. Donc, cette association-là, Après J20, complète l'association et l'action de Laurent Petitbas.
Ça progresse.
Et au fond, ça veut dire une chose. Ça veut dire que la maladie commence à s'implanter sur la durée. Donc, les victimes et les familles des victimes, qui sont énormément, de plus en plus nombreuses, malheureusement, commencent à s'organiser aussi pour demander une reconnaissance des pouvoirs publics, une journée spéciale. Et puis une prise en charge des médecins et du corps médical et puis de l'État également, puisqu'il y aura évidemment des questions de responsabilité et d'indemnité.
Merci, on verra la réponse que donnera à cette envie de mobilisation, à cette journée de deuil national Emmanuel Macron dans les semaines qui viennent. Merci Philippe Moreau-Chevrolet. Alors Laetitia, vous avez vu, comme nous tous, comme beaucoup en tout cas, l'offensive télévisée de Nicolas Sarkozy, entre autres, elle vous fait réagir ce soir.
Je vais choisir une phrase, un moment, qui résume toute la prestation de Nicolas Sarkozy. Écoutez.
Mais si votre question, est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace, monsieur Sarkozy? Je vous prends bien droit dans les yeux. Oui, monsieur Boulot. Et d'ailleurs, et vous? Si vous n'aviez pas la conviction que j'étais un homme honnête, est-ce que vous me réserviez un train d'accueil à votre journal? Est-ce que vous m'interrogez aujourd'hui comme vous le faites? Je viens répondre à toutes les questions. Je n'ai rien à cacher.
Bon, c'est du Sarkozy tout craché, hein, on le connaît bien. Interpellation du journaliste, interpellation des Français, caractère offensif, légère approximation dans la syntaxe avec l'accord des verbes qui est un peu approximatif. Et un grand classique aussi, yeux dans les yeux, qui avait été joué par un autre accusé, Jérôme Cahuzat, et qui est maintenant inscrit dans le marbre de la communication de crise. Bon, très bien, mais je ne vais pas revenir sur le fond. Est-ce que, oui ou non, c'est une revanche des petits pois? Ou est-ce que, finalement, Nicolas Sarkozy a quand même commis un délit? Je voulais ce soir insister sur la méthode, sur l'exercice, et poser la question de son efficacité. En gros, est-ce que, dans une com' de crise politique, le 20h est mort? Soit Nicolas Sarkozy est complètement old school. Il se dit que cette communication de crise des années 90, on va dire 2000, est encore efficace. Finalement, il ne convainc au final que ses soutiens qui n'ont pas besoin d'être convaincus. Ou soit le JT, effectivement, reste encore une arme massive une dans tribune, la communication de crise et permet de convaincre l'opinion publique. Pour les politiques, en tout cas, la réponse est faite, puisqu'ils sont toujours aux 20h, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Sarkozy. Tous. Et juste à noter que le soir même, il y avait quand même Carlos Ghosn sur LCI. Donc, si vous voulez, l'opinion publique, soit les âmes critiques crient à l'impunité, à l'indécence des délinquants au col blanc, soit ils se disent que dans cette bataille, Nicolas Sarkozy, finalement, avec son interview au Figaro et son interview aux 20h, avait le dernier mot cette semaine, et c'est bien ce qui est important en ce moment.
Merci Laetitia. Oui, mais à qui parle-t-il et qui a-t-il convaincu?
Voilà,
bah
c'est vrai, il y a toujours un double regard sur Nicolas Sarkozy, même avec cette affaire. Il y a le regard de l'ensemble des Français qui reste plutôt sévère, avec l'idée que les personnalités politiques sont plutôt bien traitées par la justice. On reste sur l'adage de La Fontaine, sinon qu'on soit puissant ou misérable. Et les seules personnes qui sont convaincues, ça reste le peuple de droite. Oui. Ça reste les sympathisants LR qui s'inscrivent dans une logique de fan absolu à l'égard de Nicolas Sarkozy.
Donc le message de l'acharnement ne passe pas au-dessus.
Exactement, le message de la persécution, de l'acharnement. Mmh. Et c'est en ça que ces interventions, aussi importantes soient-ils, restent d'un effet limité dans les logiques d'opinion.
Philippe Moreau-Chevrolet.
Ah, moi, j'irai encore plus loin. Je pense que le fait d'arriver à 20h quand on est un homme politique impliqué dans une affaire vous désigne comme coupable. C'est-à-dire que les Français sont tellement habitués à voir des gens débarquer à 20h au TF1, au JT de TF1 pour se défendre, que ça finit par vous rendre suspect. Donc moi, je serais, si j'étais, pour pas parler mal français comme le disait Laetitia, si j'étais Nicolas Sarkozy, la prochaine fois, je suis un peu sarkozyste, la prochaine fois, je choisirais un format différent pour me défendre, pour gagner un petit peu en crédibilité. Parce que c'est devenu une figure tellement habituelle, tellement récurrente, que ça vous rend presque suspect.
En tout cas, il ne sera pas candidat en 2022. Hein, les choses sont dites clairement et nettement. Bah, ça vous fait rire, mais il y en avait beaucoup qui attendaient peut-être une éventuelle candidature avant le procès Big Malion.
Mais ça, c'est le mythe de l'éternel retour de Nicolas Sarkozy.
On espère son soutien.
C'est le mythe de l'éternel retour à droite de Nicolas Sarkozy, entretenu par lui-même, certainement, et par ses proches, et par la base militante.
On en parlera demain. 10 secondes.
Non, mais là, sur cette question-là, il y a aussi un décalage entre les adhérents, la base militante et l'appareil LR qui n'est pas très heureux de se donner, entre guillemets, à une candidature qui s'impose de plus en plus, celle de Xavier Bertrand, et celle des sympathisants LR qui ont quand même largement tourné la page de Nicolas Sarkozy, même s'ils sont toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, fans et le voient comme une sorte de statue du commandeur.
La suite demain en feuilleton dans le débat des grandes voix. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet, merci Laetitia Krupa et Frédéric Dabi. À demain.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 19h, si vous nous rejoignez, voici Sophie Tussaud pour vous informer. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Vous êtes au cœur du grand journal d'Europe 1 ce samedi 6 mars. Merci d'être à l'écoute.
L'objectif, c'est d'accélérer la vaccination. Je salue cette mobilisation absolument exceptionnelle.
Plus question d'être accusé de lenteur. Le gouvernement promet de mettre le paquet sur la vaccination et pour s'assurer du bon déroulement des opérations. Jean Castex était sur le terrain aujourd'hui.
Le pape venu en Irak en pèlerin de paix. Le souverain pontife s'est entretenu avec le grand ayatollah Ali Sistani ce matin. Il a célébré ensuite une messe à Bagdad dans laquelle il a soutenu les chrétiens d'Irak, durement éprouvés par les exactions de l'État islamique.
60 millions d'euros d'aide pour les éleveurs, un secteur qui souffre terriblement de la crise et des polémiques. Malgré tout, certains gardent espoir et se lancent en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Reportage chez un céréalier de la Beauce dans ce journal.
Et à 19h15, je reçois le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Et puis cette grande collecte nationale des Restos du Cœur tout le week-end. Nous en parlerons avec Romain Colucci, un des 75 000 bénévoles sur le terrain jusqu'à demain soir.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Sophie Tussaud et pour le gouvernement, le message est clair. Il faut vacciner en masse pour éviter de reconfiner. Pour cela, Jean Castex promet de mettre le paquet sur la vaccination.
220 000 personnes ont été vaccinées aujourd'hui en France. Un chiffre dont s'est réjoui ce soir Olivier Véran. Des vaccinations en masse, donc sous l'œil du Premier ministre et du ministre de la Santé qui ont visité deux centres de vaccination en région parisienne cet après-midi. Bonsoir Aurélie Arbemont. Alors, réel coup d'accélérateur ou coup de com'?
Eh bien, en tout cas, ça vaccine et il faut que ça se voit avec le gouvernement aux avant-postes. Olivier Véran sera demain dans le Nord et le Pas-de-Calais, la ministre des Armées dans un hôpital militaire du Val-de-Marne et la tournée ministérielle a commencé aujourd'hui avec le Premier ministre et le ministre de la Santé qui ont visité pas moins de deux centres de vaccination dans l'Essonne cet après-midi où Jean Castex a assuré la promotion du coup d'accélérateur.
L'objectif pour les pouvoirs publics, c'est d'accélérer la vaccination qui doit nous permettre de gagner du temps précieux dans cette lutte contre la pandémie. Je salue cette mobilisation absolument exceptionnel.
Une mobilisation possible car des doses, là, il y en a. Des centaines de milliers de vaccins qui n'ont pas encore trouvé preneur, notamment parce que les soignants rechignent à se faire vacciner et parce que tous les médecins ne sont pas allés récupérer les doses prévues pour leurs patients. Le chef de l'État veut que les vaccins disponibles soient utilisés. Olivier Véran aussi. C'est pas Picsou qui veut des frigos pleins, dit un de ses proches. On est donc en pleine opération. Vider les frigos.
Aurélie Herbement du service politique d'Europe 1. Près de 120 centres de vaccination sont ouverts tout le week-end dans la région parisienne qui a reçu 51 000 doses supplémentaires de vaccin Pfizer. Et pendant que certains se font vacciner, d'autres occupent leur samedi à flâner pour profiter du soleil, comme à Paris, où les promeneurs étaient encore très nombreux aujourd'hui.
Oui, et pas simple, hein, comme la semaine dernière, de faire respecter la distanciation sociale avec tout ce monde. Eh bien, la police a procédé tout de même à l'évacuation de certains lieux, comme le canal Saint-Martin ou encore les quais de Seine où vous étiez tout à l'heure, Nicolas Fellmann.
Oui, et des policiers qui avancent en ligne et dans un mégaphone ce message.
Mesdames, messieurs, merci de bien vouloir quitter les lieux.
Quitter les lieux, c'est donc ce qu'a fait Anastasia après une petite heure de soleil au bord de l'eau.
On était sur les quais et on s'était assis, il y avait un peu de la musique, enfin, ça fait du bien en ce moment. Vu qu'on a déjà tellement peu de choses que c'est pas cool. Je pense que moralement, les gens ne se rendent pas compte à quel point les gens sont fatigués, en ont marre. Je pense qu'on pourrait nous laisser un peu tranquille en fait, là-dessus.
En moins de 2 heures, les quais sont donc vidés, mais un peu plus haut, d'autres attroupements se forment. François s'est réfugié sur le pont des Arts avec un ami.
Ce qu'on trouve absurde, c'est pourquoi garder les ponts ouverts alors que les quais sont fermés, typiquement. On est agglutinés, il y a des gens partout autour de nous, et voilà, tout autant qu'on le serait sur les quais. Je suis quand même interloqué, ouais. Face à des situations qui ne doivent pas être faciles à gérer, mais tu vois, voilà, on a un peu de mal à comprendre finalement.
Mais pour les autorités, le strict respect de ces mesures de sécurité, eh bien cela reste l'une des solutions pour éviter un reconfinement à Paris. 4400 policiers sont mobilisés jusqu'à demain dans la capitale.
Nicolas Feldman.
Et l'autre grand titre de l'actualité, c'est la visite du pape François en Irak. Le souverain pontife a rencontré ce matin le grand ayatollah Ali Sistani dans la ville sainte de Najaf.
Le religieux, la plus haute instance chiite, a assuré s'engager pour garantir la paix et la sécurité des chrétiens d'Irak. À l'issue de cette rencontre, le premier ministre irakien a annoncé que dorénavant, le 6 mars, était décrétée journée nationale de la tolérance et de la coexistence. Autre point fort de cette journée, c'était la messe célébrée en l'église Saint-Joseph en fin d'après-midi dans le centre de Bagdad. Dans son homélie, le pape s'est adressé aux chrétiens revenus s'installer en Irak après avoir été chassés par Daesh et il les a encouragés à persévérer dans leurs efforts.
La patience de recommencer à chaque fois est la première qualité de l'amour. Car l'amour ne s'annule pas, il recommence toujours. Il n'est pas attristé, il se relance. Ne vous découragez pas, mais restez créatif. Face au mal, l'amour n'abandonne pas, il ne démissionne pas. Celui qui aime ne se referme pas sur lui-même quand les choses tournent mal. Il répond au mal par le bien.
Le déplacement du pape François en Irak est suivi par notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini.
Europe Soir Weekend.
19h06, l'info se poursuit sur Europe 1. Et pour clôturer la semaine d'Europe 1 dans le Salon des agriculteurs, je reçois à 19h15 le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Nous irons rencontrer un jeune céréalier 2.0. Et puis nous serons avec Romain Colucci, le fils de Coluche, un des 75 000 bénévoles des Restos du Cœur, en ce week-end de grande collecte. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 19h07 à l'écoute du Grand Journal d'Europe 1 avec Sophie Tussaud. Et cette dernière année, avec la pandémie, le secteur de l'agriculture a été très touché. Vous le savez, ce matin, Jean Castex et Julien de Normandie, qui sera mon invité dans quelques instants, se sont rendus dans la Creuse. Le Premier ministre a annoncé une aide d'urgence pour ceux, Sophie Tussaud, qui sont le plus impactés par la crise.
Le gouvernement va débloquer 60 millions d'euros. Cette aide sera versée à 18 000 exploitations qui ont touché moins de 11 000 euros sur l'année 2020. Malgré la crise qui malheureusement pousse parfois au suicide, certains agriculteurs, certains continuent de croire en leur profession en se tournant parfois vers les nouvelles technologies, comme ce jeune céréalier que Mathieu Bock a rencontré dans la Beauce pour Europe 1.
Chaque matin, c'est avec le sourire que Victor Rabier grimpe dans son tracteur flambant neuf. Et lorsqu'il arrive dans son champ en écoutant la radio, ce jeune agriculteur de 30 ans règle son écran GPS.
Et donc là, on voit les roues du tracteur qui tournent et moi, je touche pas au volant. Le tracteur m'emmène jusqu'au bout du champ et après, c'est à moi d'intervenir pour faire le demi-tour en bout de champ. J'ai également l'option pour faire le demi-tour automatique en bout de parcelle, mais je m'en sers peu parce que sinon après on n'a plus rien à faire dans la cabine.
Et même si le métier traverse une période difficile, Victor ne regrette pas une seule seconde d'avoir repris la ferme de son père. La crise du Covid a même renforcé sa vocation.
D'un seul coup, le jour où on a dit bon bah c'est confinement, tout le monde reste à la maison et pas de déplacement inter-région, etc. Dans ces moments-là, on se réfugie sur des valeurs sûres. Cette valeur sûre-là, en fait, on s'est rendu compte que c'était l'agriculture de proximité, les marchés, etc. Et en fait, moi, je me suis dit, personnellement, on a raison d'être fiers de notre métier, on a raison de ne pas compter nos heures et d'aimer notre boulot, parce que finalement, en période de crise, les gens nous le rendent bien.
Ce jeune père de famille doit encore travailler à côté pour avoir un salaire décent, mais lui ne se concentre que sur sa grande fierté, avoir récolté l'été dernier sa première moisson, tout seul.
Le reportage de Mathieu Bock dans la Beauce.
Pour les agriculteurs connectés d'un côté, très bien sûr, en détresse aussi. Vous entendrez tout à l'heure un éleveur laitier réagir aux aides exceptionnelles promises par le gouvernement avec mon invité Julien de Normandie, Sophie.
La grande collecte nationale des Restos du Cœur ce week-end. Les bénévoles recueillent partout en France vos dons de produits alimentaires et d'hygiène. Une collecte particulièrement importante cette année. Les Restos du Cœur ont noté une hausse de 10% de ses bénéficiaires depuis le début de la pandémie.
Et nous sommes ce soir avec l'un des 75 000 bénévoles des Restos, notre invité. Bonsoir Romain Colucci.
Bonsoir Wendy.
Vous étiez, vous, de votre côté à Strasbourg pour soutenir ce week-end de collecte. C'est un événement qui avait drainé, je le rappelle, l'an passé, l'équivalent de 7 millions de repas et qui, au lendemain du concert des Enfoirés, avec les ventes de CD et de DVD, représente une part du budget très important de votre association, Romain Colucci.
Oui, absolument. C'est 3 jours de collecte, vendredi, samedi, dimanche, à laquelle tout le monde peut participer en allant faire ses courses. Et le principe, c'est simple, c'est qu'on vous donne une liste de produits, si vous le voulez bien, des produits de première nécessité, des produits d'hygiène, des produits de longue conservation. Et puis, vous pouvez en acheter un pour le donner aux bénévoles des Restos du Cœur qui sont entre les caisses et la sortie, tout simplement.
Oui, avec beaucoup de jeunes, Romain Colucci, qui sont à pied d'œuvre et beaucoup de jeunes, hélas, cette année, bénéficiaires des Restos.
Oui, mais effectivement, il y a beaucoup de bénévoles d'un jour qui viennent nous aider pour cette collecte parce qu'on a besoin de gens pendant ces 3 jours. On est présent dans plus de 6000 points de vente dans toute la France.
Oui.
Et effectivement, il y a beaucoup aussi de jeunes qui sont contraints aujourd'hui de venir au Resto du Cœur. On en parle beaucoup et on les aide autant qu'on peut avec le CROUS, avec la FAGE, avec toutes les associations étudiantes. Moi, j'ai vu ça à Lyon. Mm-hmm. C'est très efficace. Ça marche très bien. Mais il n'y a pas que les jeunes. Vous parliez des agriculteurs dans votre journal.
Oui, bien sûr.
Étrangement, des gens dont le métier c'est de nourrir les autres viennent de plus en plus souvent au Resto du Cœur aussi.
Romain Colucci, à côté de toutes les aides que proposent les restos, de l'alphabétisation notamment, vous distribuez 138 millions de repas chaque année et vous ne cessez d'avancer d'ailleurs pour faciliter ces dons et cette générosité avec l'évolution de la loi Coluche, le maintien dans le cadre du projet de loi de finances d'un plafond de 1000 euros pour les dons dits Coluche. C'est un dispositif qui a été voté, que vous souhaitez devenir pérenne pour engager encore plus la générosité.
Voilà, absolument. Donc ça, c'était une idée des sénateurs qui ont voté cet été qui ont proposé cette loi qui ont proposé de déplafonner cette loi, cet été et de monter le plafond à 1000 euros. Ça faisait longtemps qu'il était autour de 535 euros auparavant et ça a été accepté et c'est une très bonne chose parce que nous, on l'a vu dans les dons et j'en rappelle le principe de la loi Coluche. Si vous donnez, par exemple, 100 euros et que vous êtes imposable, 75% de cette somme seront remboursés sur vos prochains impôts.
Mmh.
C'est-à-dire que vos 100 repas, puisque un repas c'est 1 euro au Resto du Cœur, ne vous auront coûté que 25 euros, ce qui fait un peu plus de 2 euros par mois.
Et voilà comment on avance dans cette générosité et dans ces 6000 points de vente encore ouverts demain jusqu'à 18h. Romain Colucci, merci d'être toujours aussi à pied d'œuvre avec tous ceux qui vous entourent, les 75 000 bénévoles des Restos. Merci Romain.
Et pour terminer ce journal, on traverse l'Atlantique et on prend la direction de New York où les cinémas ont rouvert hier pour la première fois depuis quasiment un an. Notre correspondant Alexis Guilleux n'a pas résisté à la tentation d'assister à une séance. Les spectateurs étaient au rendez-vous, Alexis, mais ne sont pas venus en masse.
Oui, pas de file d'attente devant ce cinéma de Broadway, mais des petits groupes d'amis et des couples qui franchissent ces portes restées closes pendant presque un an.
I'm very excited to see people again.
Je suis ravi de voir des gens à nouveau, dit Nick. On voulait soutenir l'industrie et la ville également, rajoute sa compagne Jess, heureuse de retrouver une expérience en communauté tout en respectant les règles sanitaires. Car la prudence est de mise, 25% des sièges maximum, pas plus de 50 personnes par salle, le masque obligatoire pendant tout le film. Dans ces conditions, de nombreux cinémas indépendants ont décidé de rester fermés. Jordan, elle, voulait venir dès le premier jour car rien ne remplace une salle de cinéma.
On a une super télé, on regarde plein de choses, on est abonné à tous les services de streaming, mais il n'y a pas de comparaison possible.
Et pour elle, voir le cinéma de son quartier ouvert, c'est une renaissance.
Si ça c'est ouvert, c'est comme si New York était ouvert. C'est comme la dernière étape avant un retour à la normale.
Après les restaurants, les salles de sport et les cinémas, New York attend désormais le retour des concerts et des pièces de théâtre prévues pour début avril.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York. Nous aussi, on les attend.
Merci beaucoup. Oui, à tout à l'heure. 19h30, Sophie Tussaud. On fait le tour des régions côté ciel avec vous, Valérie Darmon.
Eh bien, de la Bretagne et des Pays de la Loire au Grand Est, en remontant vers les côtes de la Manche, vous passez la journée au soleil, excepté sur le nord du Finistère, le nord Cotentin et le Boulonnais. Et il va faire très, très froid, avec de fréquentes gelées, toujours entre moins 5 et 0 degrés. Et l'après-midi des maximales, entre 7 et 9, un niveau de février. De la Vendée au nord de l'Aquitaine, à la Bourgogne, à la Franche-Comté, le ciel qui est plus nuageux mais qui est sec. Du bassin aquitain à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, PACA, votre journée se déroule sous un ciel plus menaçant, avec quelques averses et il neige au-dessus de 1200 mètres en montagne. Enfin, en Languedoc-Roussillon, temps humide et maussade, les pluies sont soutenues sur les Cévennes et sur les Pyrénées-Orientales, avec de la neige au-dessus de 1200 mètres en montagne. Je vous donne la fourchette des maximales,
oui,
entre 7 à Saint-Brieuc et 16 degrés à Toulon.
Merci Valérie Darmon.
Europe Soir Weekend.
L'actu des sports à suivre avant notre invité, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Voici l'actu sportive. Jean-François Pérez, bonsoir.
Bonsoir.
La Coupe de France de football qui se poursuit. Un nouvel exploit il y a quelques minutes.
Oui, la qualification du Puy-en-Velay, club de National 2, 4e division, qui a éliminé Lorient, club de Ligue 1. Autrement dit, Lorient est tombé dans le Puy. Score final 1-0. Performance d'autant plus remarquable que le championnat de 4e division a été arrêté pour des raisons sanitaires et que les joueurs n'ont pas pu s'entraîner dans les meilleures conditions. Écoutez la réaction du gardien Pono. C'est comme ça qu'on appelle les habitants du Puy-en-Velay. C'est le gentilé. Écoutez donc David Oberhauser.
J'avais à cœur de montrer que le championnat de N2 valait plus que plus, ou on va pas dire plus, mais au moins le championnat national qui continue également. Donc je pense que c'est un beau message pour les dirigeants de la haute instance. Et puis on va profiter de ce moment et on est en 8e ce soir.
Oui, exactement. Et ambiance discothèque en prime. David Oberhauser au micro du diffuseur Eurosport. Des 16e de finale palpitant, Wendy, avec l'autre exploit du jour signé du Red Star, club de National, qui a sorti Lens 3-2. Les autres qualifiés de l'après-midi, Montpellier, Sedan, Metz et Rumilly. Depuis une demi-heure, Lyon reçoit Sochaux, club de Ligue 2. On y va tout de suite avec Maxime Cheuch. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Jean-François.
C'est bien parti pour les Lyonnais.
Ah oui, ça va être compliqué pour les Sochaliens de réaliser l'exploit puisqu'ils sont menés 2-0 depuis la 10e minute de jeu grâce à Maxwell Cornet, idéalement servi par Mathias de Chilio. Lyon qui avait ouvert le score à la 7e minute déjà, un corner de la gauche vers la droite, frappé par Cornet au premier poteau sur la tête du défenseur algérien de l'OL, Jamel Ben Lamri. Les pensionnaires de Ligue 2, trop timides en ce début de rencontre pour inquiéter Lyon, 3e de Ligue 1 est toujours en course pour le titre cette saison, rappelons-le. Et donc après 32 minutes de jeu, toujours 2-0 pour l'Olympique Lyonnais face à Sochaux.
Merci Maxime. Et ce soir, le PSG, Jean-François, se déplace à Brest.
Oui, Brest, équipe séduisante de Ligue 1, petit budget mais beau football. Attention donc à l'excès de confiance côté parisien à 4 jours de la réception de Barcelone en Ligue des Champions. Simon Rubin, vous êtes à Brest.
Ah, et pas facile hein, de se concentrer sur Brest quand on a en ligne de mire la Ligue des Champions. Et pourtant, ce soir, les hommes de Mauricio Pochettino vont devoir être sérieux. Hein. Le coach argentin l'a d'ailleurs rappelé en conférence de presse. La Coupe, Paris veut la gagner. Ce match a donc une immense valeur, a-t-il dit. Preuve en est, hein, on pourrait assister au retour de Di Maria, absent depuis un mois. Verratti devrait aussi avoir du temps de jeu. Mbappé pourrait débuter. On aura donc une équipe taillée pour gagner et, si possible, pour marquer vite, histoire de se mettre à l'abri et ne pas avoir à forcer le talent avant la Ligue des Champions.
Merci Simon, coup d'envoi 21h10.
Vous suivrez ce match évidemment dans Europe 1 Sport à partir de 20h et 21h10 pour ce match. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Le charme de la Coupe de France et une belle aventure, celle d'un club antillais, ce sera au cœur de votre émission.
Qui sait, effectivement, demain, pourquoi pas une autre surprise, une autre belle histoire de la Coupe de France avec l'un des petites poussées, club de Régional 1 et dernier représentant ultramarin, effectivement club martiniquais du club franciscain. Son entraîneur Patrick Cavelan sera avec nous. Il va nous dire comment ils vivent depuis 10 jours à Clairefontaine avec 20 degrés de différence par rapport à la Martinique ici en France et comment ils s'apprêtent à affronter Angers, équipe de Ligue 1, demain après-midi. Très belle aventure et peut-être magie de la Coupe de France qui va continuer à se prolonger.
À tout à l'heure, 20h. Lionel Rousseau, Jean-François Pérez, merci beaucoup.
Merci.
Europe Soir Weekend.
Et au terme d'une semaine spéciale dans le Salon des agriculteurs sur Europe 1, je reçois leur ministre Julien de Normandie, de retour d'un déplacement dans la Creuse aujourd'hui où 60 millions d'euros d'aide d'urgence aux éleveurs ont été annoncés. On y vient avec lui et en direct ce soir.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Il est 19h22 sur Europe 1 et pour notre face-à-face politique, j'accueille ce soir le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonsoir Julien de Normandie.
Bonsoir.
De retour de la Creuse où vous avez passé la journée avec le Premier ministre à la rencontre d'un certain nombre d'éleveurs, éleveurs de vaches et de veaux, de races limousines et de races charolaises, des éleveurs bovins qui, l'an passé, en moyenne, ont gagné 700 euros par mois. Le fonds de 60 millions d'aides d'urgence que vous annoncez est débloqué et pour eux en particulier.
Exactement. Ce fonds, il est destiné à, vous savez, toutes ces femmes, à tous ces hommes qui travaillent de manière incroyable, tout simplement pour nous nourrir. Mais face à la crise, et notamment à la crise du Covid, ils ont vu des débouchés qui se sont fermés, et donc ils ont des revenus qui se sont fortement abaissés. Et donc face à ça, nous avons décidé de débloquer des aides d'urgence pour consolider leurs revenus et faire en sorte qu'ils puissent vivre dignement de leur travail, alors même que ce pourquoi ils travaillent, c'est de nourrir le peuple français. Et donc la moindre des choses, c'est effectivement de les accompagner.
Dispositif exceptionnel de soutien. Damien Mestre a interrogé un éleveur laitier dans la Somme, Olivier Thibault. Écoutez sa réaction, Julien de Normandie.
Tant mieux pour chaque agriculteur qui va en bénéficier, parce que bah, y a des agriculteurs qui en ont besoin, il y a des agriculteurs qui n'y arrivent pas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier, de la vente de nos produits, c'est pas vendre des aides publiques, parce qu'on sait très bien que les aides, c'est éphémère et c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est le long terme. Nous, quand on fait des investissements, qu'on travaille sur une exploitation, c'est tout du long terme. Donc on sait que on a besoin des prix qui rémunèrent de notre travail, et nous on aimerait bien aussi voilà des quelques centimes sur le prix du lait, le prix du kilo de cochon, de la vache, etc.
Voilà, la fameuse juste rémunération. Que répondez-vous à cet éleveur laitier Olivier Thibault, Julien Normandie?
Eh bien que je partage pleinement, entièrement, totalement son combat qui est le combat du prix. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quoi l'ADN de notre agriculture? C'est de faire des produits de qualité. Ce matin, nous étions dans la Creuse avec le Premier ministre, vous l'avez dit, autour de cette race limousine. C'est de la viande d'une incroyable qualité. Mais on observe dans notre pays ce qu'on appelle la guerre des prix, toujours les prix les plus bas. Mais quand vous êtes dans une guerre des prix, évidemment que vous ne pouvez pas pousser pour une meilleure qualité. Et donc ce qu'il faut faire, c'est arrêter cette guerre des prix. Ça veut dire deux choses. D'abord, mettre fin à des comportements de la grande distribution, des industriels, qui ne cessent de faire cette guerre des prix. On a une loi, à mon avis, il va falloir aller encore plus loin, parce que cette loi, aujourd'hui, elle ne marche pas totalement. C'est le mandat que m'a donné le président de la République. Et le deuxième élément, très important, c'est tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Nous sommes des consommateurs, mais nous sommes aussi des acteurs. Et donc, quand on est face aux étals dans nos supermarchés, posons-nous la question d'où viennent les produits. Posons-nous la question, est-ce que oui ou non on veut des produits de qualité, mais une qualité ça se rémunère. Ou est-ce qu'on continue à importer sans cesse des fruits, des légumes, de la viande de moindre qualité?
Oui, la démarche
qualité. Voilà, c'est ces deux choses qu'il nous faut faire.
Et la souveraineté alimentaire, mais vous parlez du juste prix. On sort des négociations là entre producteurs, distributeurs. Le médiateur que vous avez nommé, l'ancien directeur général de Système U, Serge Papin, était sur notre antenne samedi dernier et il plaidait pour éviter justement ces conflits permanents de passer à des négociations pluriannuelles. Est-ce que cette recommandation, par exemple, avance, Julien de Normandie?
Elle avance, Elle avance même bien, elle avance rapidement. Ce que propose Serge Papin, qui est l'ancien directeur de Système U. Donc, il connaît exactement
les
tous les rouages,
de la grande distribution, oui.
Exactement, du jeu de dupes dans lequel notre pays est enfermé depuis des décennies. Et donc, il connaît précisément ces rouages. C'est pour ça que je l'ai nommé. Et donc, on va renforcer la loi, on va renforcer les pratiques pour passer, par exemple, à ce qu'on appelle de la contractualisation pluriannuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner de la visibilité sur les prix sur plusieurs années pour permettre à chacun de réussir à bien faire valoir la création de valeur, la répartition de richesses.
Oui.
Ça, c'est très important. On avance dessus. Et s'il faut, encore une fois, modifier la loi, eh bien, nous le ferons.
La loi Egalim. Autre piste, garantir par contrat le prix de la matière première pour que les agriculteurs ne pâtissent pas de la variation des cours. Est-ce que cette idée aussi fait son chemin? S'annonce concrètement, Julien Normandie.
Oui. Là aussi, ça fait partie des recommandations que moi je porte et que je veux pousser et mettre en œuvre. Je vous donne un exemple. Les œufs aujourd'hui que nous consommons.
Oui.
Il faut que chacun ait en tête que l'alimentation de nos poules, leur prix a augmenté de 40%. Et c'est évidemment ce qui coûte le plus cher lorsque nous avons un élevage de volailles. Ça a augmenté de 40%. Face à ça, le prix de l'œuf n'a pas augmenté d'autant. Mais ça n'est absolument pas concevable que la seule personne qui soit la variable d'ajustement soit in fine l'agriculteur. On ne peut pas accepter un tel système. Donc faut d'un côté toujours monter en qualité et de l'autre côté avoir cette responsabilité collective, je le redis, en tapant très fort tous les comportements inacceptables de la grande distribution des industriels.
Oui.
Et nous portons de grosses sanctions dès lors qu'ils ne respectent pas la loi et qu'ils ont ces comportements. Et d'autre part, que chaque consommateur se dise
ça
bah oui,
dire...
la qualité, ça a une rémunération, ça doit être payé à sa juste valeur.
Ça veut dire une veille, ça veut dire des médiateurs de part et d'autre, Julien de Normandie, pour vous remonter justement les blocages ou les inepties.
Ça veut dire ça, ça veut dire en fait les services de contrôle de l'État.
Oui.
On a une direction qui
est dédiée. La DGCCRF aussi, oui.
Exactement, la DGCCRF. Et songez qu'en l'espace de 6 semaines, nous avons fait l'équivalent de 6 mois de contrôle vis-à-vis de celles et ceux qui ne respectent pas la loi. Parce que, encore une fois, face à nous, on a la question de la souveraineté. Moi, c'est ça qui m'anime, la souveraineté agroalimentaire. Notre pays, depuis un an, n'a jamais manqué de produits. Pourquoi? Parce qu'on a une agriculture forte. Mais une agriculture forte, elle n'est pas possible si on n'a pas d'agriculteur. Et un agriculteur, ça doit pouvoir vivre de son travail. Ça veut faire encore plus de qualité, toujours plus de qualité.
Julien,
mais ça se rémunère.
Julien de Normandie, voilà, ça se rémunère. Or, on a ces barèmes qui sont terribles. Je le disais tout à l'heure, des éleveurs bovins qui, en moyenne, gagnent 700 euros par mois lorsqu'ils se rémunèrent. Hein. On a un certain nombre d'agriculteurs qui ne touchent rien, qui ne peuvent pas se verser de salaire. Éleveurs bovins, bien-être animal dans tout cela. La Fondation Bardot s'inquiète, Julien de Normandie. Elle n'a pas vu depuis 30 ans autant de bovins, notamment saisis dans des fermes qui n'y arrivent plus, justement. C'est préoccupant. Elle vous a même lancé un SOS pour vous demander un soutien, des subventions de manière à récupérer, à placer ces animaux d'élevage dans les refuges. Vous êtes au courant et vous avez répondu à cette sollicitation, Julien de Normandie?
Oui, évidemment, on travaille sur le bien-être animal, à la fois dans les élevages, à la fois dans les animaux de compagnie. On voit par exemple une recrudescence d'abandon d'animaux de compagnie. On détient le record d'Europe et peut-être du monde en termes de nombre d'abandon d'animaux de compagnie. Et on met des moyens dessus. Mais vous savez, si j'en reviens à l'élevage, le bien-être des animaux, il est d'autant plus assuré que nous avons le bien-être des éleveurs. Lorsque vous avez une ferme qui s'arrête parce que l'éleveur n'a pas de quoi se rémunérer, eh bien là, on arrive à ces catastrophes que vous évoquez. Et donc, ce bien-être des éleveurs, il ne passe pas que par la rémunération. C'est un métier de passion, c'est un métier d'envie, c'est un métier où on fait énormément de choses, c'est un métier innovant. Mais c'est un métier qui ne peut pas vivre que de la passion, qui doit vivre aussi de sa rémunération. Et c'est pour ça que on a annoncé ce matin avec le Premier ministre ces aides d'urgence, que dans le cadre du plan de relance, on développe beaucoup de financements, qu'on continue à créer cette valeur à travers les filières. Mais vraiment, je le redis à chacune et chacun qui nous écoute, quand on est devant les étals d'un supermarché, songez à chaque fois que derrière l'aliment, il y a une femme, il y a un homme qui travaille. Est-ce qu'on veut faire vivre nos terroirs, nos agriculteurs, ou sans cesse importer des produits qui ne respectent parfois pas nos normes de pratique culturelle ou agronomique.
C'est pour louer.
Donc ça relève de la responsabilité collective.
C'est pour louer ces femmes, ces héros, ces héroïnes du quotidien que nous avons multiplié les reportages et les émissions cette semaine sur Europe 1. Un dernier mot sur le bien-être animal au cœur des réflexions. En Allemagne, le broyage des poussins sera interdit l'année prochaine. Est-ce que vous allez tenir l'engagement de votre prédécesseur Didier Guillaume au nom du gouvernement de l'interdire aussi cette pratique, le broyage des poussins, d'ici la fin de l'année, Julien Dormier?
Oui, on y travaille. D'ailleurs, on y travaille fortement avec nos collègues allemands pour déterminer les meilleures pratiques possibles pour pouvoir mettre fin à cela. Et donc, c'est un travail qui est en cours. C'est un travail qu'on porte d'ailleurs au niveau européen avec la filière.
Très bien.
Vous savez, très souvent, on essaye d'opposer bien-être animal et élevage. Les éleveurs, et ce matin, on l'a très bien vu dans cet élevage de Limousine, les éleveurs aiment leurs animaux, en prennent soin. Il faut prendre soin de nos éleveurs. Ils prendront encore plus soin de leurs animaux. Je crois que c'est une évidence, il faut le redire. Et je remercie une nouvelle fois Europe 1 d'avoir consacré cette semaine dédiée à l'agriculture, parce que il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Et donc, ce collectif qui porte cette agriculture forte, il est essentiel.
Et nous aimons nos paysans en France. Merci Julien de Normandie d'avoir clôturé cette semaine spéciale sur Europe 1. Vous qui étiez de retour de la Creuse, 60 millions d'euros d'aide d'urgence débloqués pour les éleveurs en situation de précarité. Merci beaucoup.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Sophie Tussaud pour nous informer, les 19h31, Sophie.
220 000 Français ont été vaccinés aujourd'hui en France, plus du double de samedi dernier, chiffre annoncé par Olivier Véran sur Twitter ce soir, alors que le gouvernement veut donner un coup d'accélération dans la campagne de vaccination. La visite du pape en Irak, le souverain pontife a célébré en fin de journée sa première messe publique dans le pays. Ce matin, il s'est entretenu avec le grand ayatollah Ali Sistani, qui a fait part de son engagement pour la paix et la sécurité des chrétiens. 200 policiers en renfort dans la banlieue de Lyon pour faire respecter l'ordre ce soir. Décision de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Après les dernières violences, hier soir, 13 véhicules ont été incendiés, au moins 6 personnes interpellées. Puis aux États-Unis, le plan de relance de Joe Biden franchit l'étape décisive du Sénat après des heures de débat. Il a approuvé le texte qui prévoit 1900 milliards de dollars pour relancer la première économie mondiale frappée par la pandémie.
Merci Sophie Tussaud, tout à l'heure 20h pour le journal sur Europe 1. Il est 19h33 si vous nous rejoignez.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et vous êtes ce soir plusieurs dizaines de milliers à nous écouter un peu partout en France. Alors on parlait des agriculteurs, ils sont nombreux à réagir. D'ailleurs, agriculteurs très connectés, très présents sur les réseaux sociaux pour deviser, pour échanger, pour parfois aussi reprendre point par point les réalités que nous énonçons de manière un peu parfois centralisée ou jacobine. C'est une France que notre invité a visitée côté campagne pour comprendre ce qui s'y vit et ce qui s'y joue. Bonsoir Anthony Cortès.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre dans ce studio, vous qui publiez Le Réveil de la France oubliée aux éditions du Rocher. Un an et demi après le mouvement des Gilets jaunes, c'est comme une radioscopie à laquelle vous avez souhaité vous livrer aussi au cœur de ces campagnes.
C'est ça, et j'ai voulu aussi changer le regard qu'on pouvait porter sur la campagne, sur la France rurale. Je suis moi-même un rural, je suis originaire des Pyrénées-Orientales, et ce que j'ai voulu montrer, c'était que c'était pas vraiment une France passéiste, réactionnaire et dépassée. Au contraire, elle était force de proposition, elle était innovante aussi, et justement, vous en parliez du mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement, il a aussi permis d'accélérer les choses, de prendre à partir de cette prise de conscience, de se lancer et de créer un contre-modèle.
Oui, de mettre en lumière cette France périphérique et oubliée, comme on l'a qualifiée. Ce mouvement des Gilets jaunes qui a donné à certains de ses habitants, vous en avez rencontré, Anthony Cortès, une raison de se battre, un sens, une utilité sociale. On en a beaucoup parlé à l'époque, mais c'est très présent encore dans les esprits.
Oui, complètement. Alors c'est vrai qu'on a toujours dit que la France paysanne et la France rurale n'étaient pas forcément capables de créer, de se réunir autour d'une conscience de classe, d'une conscience commune. Et c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes-là a apporté et a permis à certaines personnes de se rendre compte que, quelles que soient les classes sociales dans cette France-là, cette France que je décris comme oubliée, on avait les mêmes intérêts, on avait les mêmes aspirations. Et donc, c'est ce mouvement-là qui a permis un élan, et je le vois, certaines personnes, enfin en tout cas je l'ai vu sur le terrain, certaines personnes me disent, voilà, quand on était devant la télé, devant ce mouvement, ces manifestations, c'était comme si on regardait une équipe de foot, une équipe qu'on supporte. Et c'est vrai qu'à la suite, dans les mois qui ont suivi ce mouvement-là, certaines personnes se sont engagées en politique et se sont engagées d'ailleurs d'autres façons aussi, en reprenant des services publics, des écoles par exemple, on en reparlera peut-être.
Oui.
Et c'est dû justement à ce mouvement des Gilets jaunes.
Anthony Cortès, il y a le mouvement des Gilets jaunes et il y a cette année de pandémie qui a aussi reconsidéré notre regard sur la campagne qui possède un fort pouvoir d'attraction. Alors on est peut-être un peu dans l'image d'Épinal du 21e siècle parce que tout n'est pas facile à la campagne, mais très clairement, c'est l'endroit où il fait bon vivre pour tous les citadins qui sont interrogés.
Complètement. Et dans le même temps, il ne faut pas non plus idéaliser la campagne. C'est vrai qu'il y a un très fort taux de chômage, un très fort taux de pauvreté.
Un enclavement compliqué.
Voilà. Mais c'est vrai que cette crise épidémique, si elle peut avoir un côté positif, c'est en tout cas d'amener un nouveau public vers ces campagnes-là, un public qui prend conscience que le mode de vie des villes n'est pas forcément adapté au bien-être auquel ils aspirent. Et en tout cas, oui, s'il peut y avoir un côté positif, c'est celui-là.
Oui, vous dites, en relayant un sondage IFOP, que 81% des Français considèrent que la vie à la campagne est une vie idéale. Alors, il y a l'accès à la maison individuelle, à la propriété qui est importante dans cette démarche, les prix plus attrayants aussi. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que vous décrivez la campagne, la ruralité comme l'espace de tous les possibles. Et vous avez vu un tas d'initiatives incroyables qui rendaient les projets possibles, justement.
Il y a beaucoup d'initiatives. Alors, ce qui est triste dans le même temps, c'est que ces initiatives-là, elles naissent d'un oubli. On se dit, voilà, en tout cas, c'est intériorisé, qu'on a été oublié, que l'État n'est pas forcément là et ne sera pas là. Donc, on se serre les coudes et puis on y va.
Oui,
donc,
vous parlez des commerces, notamment en centre-ville. Il faut réactiver.
Les commerces, alors c'est vrai que j'en parle beaucoup, l'ouverture des épiceries solidaires, par exemple, avec un statut bien particulier. Les commerces ambulants aussi, qui naissent beaucoup. Il y a même des cabinets médicaux ambulants qui naissent. Et il y a même des services publics, je le disais tout à l'heure, des écoles avec des parents qui se réunissent en association, qui lancent des campagnes de financement participatif pour reprendre l'école du village, souvent sous statut associatif, avec des aspirations démocratiques. On est pour ou on est contre, mais en tout cas, au moins, ça apporte une vie, un supplément de vie.
Épicerie solidaire, école collective, reprise par des familles, et puis et d'autres initiatives comme un mouvement citoyen et solidaire, Bouge ton coq, que vous mettez en lumière aussi, qui veut faciliter la chaîne de financement pour les tout petits projets justement en local. Alors, c'est vrai que 5 000 euros, avec 5 000 euros à la campagne, on peut faire beaucoup de choses, on peut créer des poulaillers municipaux par exemple. Bon, c'est un mouvement que vous connaissez, que vous avez mis en lumière dans ce livre, Anthony.
C'est un mouvement qu'il faut promouvoir vraiment, et puis vous le disiez, avec 5 000 euros on fait énormément de choses. La preuve, en quelques semaines ils ont réuni 6 000 euros et ils ont ouvert 3 épiceries solidaires.
Oui.
C'est, mine de rien, c'est énorme, parce que ces épiceries solidaires là c'est pas simplement un commerce, c'est aussi un lieu de vie, un lieu de rencontre qui après amène aussi un nouveau public qui peut créer d'autres initiatives. C'est un cercle vertueux, en fait, qui démarre grâce à Bouge ton coq, et il faut saluer cette initiative.
La campagne, le lieu de tous les possibles. Vous écrivez que faire le choix de la campagne, c'est aussi faire le choix d'une vie tournée vers l'environnement. On le voit de plus en plus, les circuits courts, ces démarches qualité. Cela dit, il n'y a d'avenir que s'il y a de jeunesse. C'est bien le problème. Mais il y a un sondage intéressant aussi. Les jeunes aiment leur terroir. 87% des jeunes issus des milieux ruraux souhaitent y vivre et 72% souhaitent y travailler. Cette jeunesse, c'est l'espoir, c'est simple.
C'est l'espoir, et c'est vrai qu'il y a un terreau particulier. C'est un attachement qu'on voit nulle part ailleurs, qu'on ne voit pas à la ville, qu'on ne voit pas dans les petites villes ou en périphérie. On aime ces villages-là parce que c'est une communauté resserrée, avec une culture propre, une culture qui a dépassé les générations et dans laquelle on se reconnaît. C'est quelque part une famille. Maintenant, que fait-on de ce chiffre-là? C'est vrai, vous l'avez dit, 87% des jeunes veulent y rester, veulent y travailler. Le problème, c'est qu'ils sont moins de 20% à le faire. Ça montre bien qu'il y a aucune possibilité d'y vivre, de s'y épanouir. Et c'est vrai que quand on est jeune, quand on a 15, 18, 20 ans, on ne peut pas voir l'avenir, malheureusement, dans la campagne. Parce que pourquoi fonder une famille alors qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de commerce, ou alors qu'on doit prendre la voiture pour aller boire un pot ou travailler pour un oui ou pour un non. Donc Il faut vraiment travailler là-dessus, il faut vraiment réimplanter des commerces et des services
et
publics.
Et qui a l'avenir entre ses mains? Parce que vous parlez évidemment du rôle des maires, mais évidemment c'est beaucoup plus centralisé.
Évidemment, c'est beaucoup plus centralisé. Alors ce que je montre, c'est un mouvement d'autonomie qui quelque part joue le rôle de pansement, mais évidemment ça doit venir d'en haut, les politiques publiques doivent être davantage pensées autour de la ruralité, avec davantage de transversalité peut-être ministérielle également.
Oui.
Mais aujourd'hui la ruralité n'est pas une priorité et c'est bien malheureux. Et tant que ça ne sera pas le cas, il n'y aura pas davantage de vie.
A contrario, vous qui avez grandi dans les Pyrénées-Orientales, Anthony Cortès, vous croyez que le futur va s'écrire au village ?
J'en suis certain. Je pense qu'il y aura un après-Covid, on le voit autour de nous. J'en suis certain que vous aussi, vous avez des exemples autour de vous
de plus
personnes
en plus.
Qui se posent des questions et qui ont envie parallèlement de s'engager. Donc s'engager, échanger de mode de vie, la réponse, elle est toute trouvée, c'est partir dans les villages, partir dans cette...
Mais c'est un nouveau mouvement, c'est le mouvement des néo-ruraux, mais encore faut-il qu'il soit tenable et pérenne, et ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, on lit votre livre avec plaisir, Le réveil de la France, oublié, Anthony Cortès, et si notre avenir était dans les villages, aux éditions du Rocher. Merci d'être venu jusque dans les studios parisiens d'Europe 1, mais écoutez partout en France. Merci beaucoup, Anthony.
Europe Soir Weekend.
À suivre avec Fabien Lecoeuvre, une chanson dans la tête au lendemain du concert des Enfoirés, au cœur du week-end de collecte des restos. On en parlait avec Romain Colucci. On parle de celui qui en fut l'architecte, grand talent musical et artiste généreux, Jean-Jacques Goldman.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, une chanson dans la tête.
Place à la musique, c'est notre rendez-vous chaque week-end. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
En studio, en direct, pour vous faire du bien quand la musique est bonne, avec hier soir sur TF1, la soirée événement des Enfoirés.
Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frère, belle lyonnaise charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Avec un nouveau collectif, une nouvelle troupe qui s'enrichit, qui rajeunit, qui change en tout cas d'année après année. Et même si Jean-Jacques Goldman ne fait plus partie de cette troupe depuis 2016 maintenant, eh bien on salue encore ce soir Fabien, son rôle essentiel dans cette grand-messe musicale et caritative. On salue sa carrière aussi ce soir.
Absolument, Wendy. Goldman qui fêtera cette année, d'ailleurs je dois le rappeler Wendy, au mois de septembre, ses 40 ans de carrière en solo et ses 70 ans d'âge le 11 octobre. Alors depuis ses débuts en 1981, Goldman a enregistré 7 albums en solo, 2 albums en trio avec Carole Fredericks et Michael Jones bien sûr, 6 albums live, presque 300 chansons, dont, tenez-vous bien Wendy, 160 pour d'autres artistes comme Céline Dion, Johnny Hallyday, Patrice Acas, Raled, Patrick Fiori, Marc Lavoine, Calogero ou Florent Pagny.
Et c'est par Coluche, par l'ami Coluche évidemment, que Goldman se retrouve dans l'aventure des restos.
Bien sûr, c'est même Coluche qui vient le voir en concert au Zénith à Paris le 3 décembre 1985 et qui lui demande ce soir-là, à l'issue du concert, une chanson efficace pour les Restos du Cœur. Alors, sensibilisé par cette cause, Goldman écrit et compose en quelques jours la chanson des Restos, un véritable hymne pour l'association, enregistré en décembre 1985 par plusieurs personnalités du moment.
Moi je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
Yves Montand, voilà, ceux qui ont été présents dans cette première édition.
Absolument.
Ce premier titre originel est si fort. Par amitié, par fidélité et aussi par fibre sociale, c'est donc Goldman qui, après la mort de Coluche, va tout faire, Fabien, pour faire durer ce collectif.
Ben oui, un collectif très important pour les recettes des Restos du Cœur, absolument. Et donc en 1989, 3 ans après la disparition de Coluche, Jean-Jacques Goldman s'associe à Véronique Colucci pour pérenniser, on va dire, l'œuvre caritative du célèbre humoriste. Mmh. Ainsi, au mois de novembre, il a l'idée de réunir plusieurs de ses amis chanteurs pour participer à une toute première tournée. Et parmi les premiers qu'il contacte, il y a bien évidemment Johnny Hallyday, avec lequel il vient de connaître un très grand succès avec l'album Gang. Il y aura après Eddie Mitchell, Michel Sardou et Véronique Sanson qui acceptent aussi la proposition. Tous les 5 se retrouvent donc sur scène du lundi 6 au 14 novembre 1989 pour la toute première tournée des Enfoirés.
Je voudrais que ton fils vive mieux que toi, qu'on le respecte mieux, qu'on le vouvoie.
Sardou qui faisait partie, Michel Sardou, de cette première tournée des Enfoirés.
Et oui, alors 3 ans après, en 1992, Goldman, toujours très impliqué dans l'œuvre humanitaire, a l'idée d'organiser une soirée à l'Opéra Garnier, intitulée La soirée des enfoirés. Ce spectacle se déroule le 9 janvier, on va dire, 1992, et rassemble, tenez-vous bien, une dizaine d'artistes, dont Francis Cabrel, Renaud, Patricia Cass, Muriel Robin, Patrick Sébastien, Michael Jones et Carole Frédérics.
Ça grandit ce petit collectif avec ce cœur palpitant grandit et cette soirée des enfoirés va finir par devenir un rituel, Fabien Lecoeuvre.
Ben oui, le concept est archi populaire et devient en effet une tradition à laquelle de nombreuses personnalités médiatiques répondront présents chaque année pour offrir un show unique. Et d'ailleurs cette année, hier soir, on a témoigné puisque 9,2 millions de téléspectateurs, c'est d'ailleurs le meilleur score en tout cas d'audience depuis 3 ans.
Oui, c'est suivi et c'est un événement qui permet au Resto du Cœur de distribuer des millions de repas, 8% du budget annuel, ce collectif des enfoirés. Au-delà de la chanson des restos, Goldman a composé d'autres titres, d'autres hymnes pour l'événement.
Oh oui, Wendy, plusieurs. En 2012, Encore un autre hiver sur des paroles de Grégoire. Et puis en 2013, il écrit et compose Attention au départ, un titre rock très efficace et militant qui connaît un très grand succès.
Attention au départ, direction notre histoire.
Attention au départ, 2013, vous reconnaissez la griffe de Goldman. C'est d'ailleurs, vous nous apprenez encore des choses, Fabien Lecoeuvre, grâce au resto qu'il rencontre Céline Dion.
Exactement, Wendy. Au départ, l'auteur-compositeur et la jeune chanteuse québécoise se connaissent peu. Ils se rencontrent vraiment pendant un concert des Enfoirés au Grand Rex le 27 janvier 1994. Et ce soir-là, ils interprètent ensemble la chanson Là-bas.
J'aurais ma chance, j'aurais mes droits, et la fierté que si je n'ai pas. Tout ce que tu mérites est à toi. Si les autres imposent leur loi, je te perdrai peut-être là-bas. Je me perds si je reste là.
Et alors, Wendy, pour
c'est
la
leur
suite,
première rencontre. Alors.
Ah, première rencontre.
Magnifique.
Et pour la suite de l'histoire, quelques jours après, ils se retrouvent dans un restaurant dans le quartier de l'Opéra à Paris. Et Jean-Jacques propose alors à Céline Dion de lui écrire des chansons. Après 8 mois de travail, bien évidemment, Jean-Jacques Goldman fait écouter pour la première fois Pour que tu m'aimes encore, ainsi qu'une dizaine d'autres maquettes de chansons à Céline Dion et à son mari René Angélil. Jean-Jacques est persuadé que ce titre ne plaira pas à Céline et qu'il y a des chansons bien meilleures parmi ses propositions. Il pense même que Céline ne retiendra pas cette chanson. Et pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. Quand Jean-Jacques passe la maquette de la chanson, la chanteuse et son mari ressentent immédiatement un coup de cœur pour le titre, au grand étonnement bien sûr de Goldman.
J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant.
Ah oui, on y va Rémi, tu as raison à la réalisation, mais on a envie d'entendre ces titres sur la longueur, mais vraiment Goldman c'est exceptionnel. Autre grande collaboration réussie pour Goldman, c'est l'album Gang.
C'est vrai Hallyday. Wendy, après le succès des chansons écrites et composées par Michel Berger pour Johnny Hallyday, en 1986 Alain Lévy, qui est le nouveau patron de Polygram, la maison de disques de Johnny, demande à Jean-Jacques Goldman, qu'il connaît bien puisqu'il était précédemment patron de CBS, la maison de disques de Jean-Jacques Goldman, s'il souhaitait justement coopérer avec Hallyday. Goldman accepte et fait un album sur mesure pour Johnny. Au départ, lorsque Jean-Jacques Goldman accepte la proposition, sa première idée est de faire chanter à Johnny des chansons rapides, très rock'n'roll, qui correspondent totalement à son identité, on va dire, de rocker. Et pourtant, en finalité, ce seront surtout les ballades que lui compose Goldman qui deviennent d'immenses succès. C'est le cas de « Je te promets », une belle et tendre déclaration d'amour qui connaît un immense succès durant l'été 1987 et reste 22 semaines au top 50 d'Europe 1.
Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme.
Je te promets, encore un chef-d'œuvre de Goldman pour Johnny Hallyday. En tant qu'interprète, Jean-Jacques Goldman a été un peu cantonné à ses débuts en chanteur à minette. Quand on voit son parcours, eh bien, on s'éloigne évidemment de cette idée.
Absolument, Wendy, au début des années 80, c'est l'idole des cours des collèges, on peut dire. On le retrouve dans toute la presse jeune, OK Magazine, Girls, Podium. Ses chansons trouvent un véritable écho auprès des jeunes de la génération Mitterrand.
Bien sûr.
Il faut dire qu'il aborde des thèmes simples, pleins d'optimisme et d'espoir pour les jeunes en recherche de repères et d'ambition. Alors c'est notamment le cas en 1982 avec la chanson « Au bout de mes rêves ».
Et on boucle la boucle, on parlait des jeunes sur le pied de guerre pour cette collecte des Restos du Cœur. Vous pouvez donner encore en ligne sur le site lesrestosducoeur.fr et dans les 6000 points de vente qui sont associés à l'opération jusqu'à demain, 18h, Goldman et l'aventure des enfoirés et des restos. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre. Demain,
oui, on se retrouve demain et on va dire 24 heures avant la journée de la femme. Et bien, je vous prépare une séquence sur l'histoire de ce jour et des succès bien sûr consacrés aux femmes depuis 124 ans.
Merci.
Tout un programme.
Bah écoutez, je ne sais pas si on fera le tour en 1 minute 30, mais en tout cas, c'est un plaisir. Merci Fabien et à demain.
À très vite.
Europe Soir Weekend.
Et à tout de suite avec l'entretien de Philippe Legrand, Pascal Obispo ce soir à l'honneur.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Une date, une histoire.
Ajaccio, ville natale de Napoléon, ville d'histoire et de rencontres, vous présente l'entretien de Philippe Legrand.
Bonsoir Philippe Legrand.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Le ballon rond est en or, nous sommes en 1998, la France gagne la Coupe du Monde. Bonsoir Pascal Obispo.
Bonsoir.
Chanteur, auteur, compositeur, il faudrait ajouter aussi aujourd'hui entrepreneur, car vous vous lancez dans de nouvelles activités. Pascal Obispo, avec plus de 60 chansons à votre répertoire dans votre voix, vous comptez pratiquement autant de tubes, plus que tout au monde, ou encore ce prénom, Lucie. Mais aussi, on n'est pas seul sur Terre, vos refrains restent dans les mémoires. Obispo aime les mots et les notes de musique qui donnent le tempo. Ce soir, vous avez choisi de revenir sur ce 12 juillet 1998, lorsque la France remporte la Coupe du Monde de football. Europe 1 était aux premières loges avec Pierre Lubas et Eugène Saccomanno.
Denilson au corner. Denilson, beaucoup de joueurs, tape dessus et c'est Dugarry qui récupère. Dugarry qui le voit, il va mener le contre-attaque et il y a trois Français qui partent sur la contre-attaque, notamment Emmanuel Petit. Petit qui va marquer le troisième but. Et troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble, la France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable. L'arbitre vient de siffler 1-0. La France est championne du monde. Les gagnants de France est sur le toit du monde.
Sacré Sacco, hein, sacré Saccomanno. Quelle ambiance ce 12 juillet 1998. Alors, c'est votre passion du ballon rond qui vous a fait choisir cette date ce soir ?
Oui, moi je suis passionné de football depuis très très longtemps et ce moment qu'on a vécu était trop rapide. En fait, le temps de s'asseoir et de boire un coup et de manger un petit sandwich, on était déjà à 2-0. Il n'y avait pas vraiment de tension finalement dans cette finale. Les tensions étaient avant, mais ça a été plutôt, on va dire, limpide. C'était très direct et très rapide et c'est vrai que c'est le moment d'après. A été très 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 long, intense, cette fête partout dans tous les foyers, et puis sur les champs c'était on s'est baladé, après j'ai retrouvé les joueurs, on se souviendra toujours de ce moment-là évidemment. Enfin, moi je l'ai vécu de près puisque bon, je voyais certains joueurs, moi j'étais pote, bon, je suis pote avec Bichente, avec Duga, avec cette génération, avec Fabien, Zizou, bon, connais tous. Moi, j'étais quasiment un privilégié.
Alors, les champions, vous les avez applaudis. On les a applaudis le 12 juillet 1998. Mais le champion aujourd'hui que l'on applaudit, c'est aussi vous, parce que Obispo 2.0, eh bien, c'est un début, une nouvelle aventure. Je disais en vous présentant entrepreneur, Obispo All Access. Pourquoi ce choix ? Ce choix d'une autre vie d'artiste sur la toile ?
Un choix de liberté, tout d'abord. Le temps qui passe et dans le système dans lequel j'évoluais, avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir et dans lequel j'ai toujours beaucoup d'amis, je me sentis plus en fait libre de faire que je voulais. Et je suis un laborantin. Moi, je suis toujours dans mes studios, en train de composer, en train de créer. Je ne peux pas supporter passer 3-4 jours d'affilée sans rien faire. Moi, j'ai besoin toujours d'être en création continue. Donc, moi, en tout cas, je le fais principalement pour moi, évidemment, pour me faire plaisir, et parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de cette création. Et puis, je pense et j'espère aussi que ça fait plaisir aux gens qui aiment mon travail et le suivent depuis quasiment 30 ans. Être restreint à un album tous les 3 ans, moi, ne me suffisait plus. Vous voyez, j'ai l'âge que j'ai et j'ai besoin, tant que j'ai de l'énergie et tant que j'ai la foi et tant que j'ai cette espèce de spontanéité d'adolescent, malgré mon âge, j'ai besoin et j'ai envie de multiplier les projets, les chansons, les albums, et pas seulement, puisque dans cette application, ce qui est assez innovant et ce qui change des applications de streaming, il y a aussi de l'image, des rencontres, des clips. Et peut-être que cette image, ces lives, ces rencontres, si elle est un jour intégrée dans les nouvelles plateformes, peut-être qu'il y aura une forme de répartition peut-être meilleure pour tous ces artistes qui arrivent. Et là, je parle de tous les jeunes qui font de la musique et qui ont du talent. Donc, on essaye de créer quelque chose de différent, de nouveau. Et voilà. Et peut-être qu'un jour, sur les plateformes de streaming, nous aurons aussi ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de l'image, des vidéos et d'autres choses, avec une vraie rémunération pour les petites mains, tous ceux qui sont dans l'ombre et qui nous permettent, nous les artistes, d'être devant et de récolter les applaudissements.
Une philosophie claire et surtout de la musique, des vidéos, vous l'avez dit, avec Obispo All Access, disponible sur Apple Store et Google Play. On vous retrouve bien sûr dès maintenant, on l'a compris aussi, le champ des possibles créatifs est extrêmement large, j'allais dire totalement infini lorsqu'on vous entend en parler. C'est le mot qui vient. Merci d'avoir fêté la victoire des Bleus à nouveau ce 12 juillet 1998, ce soir sur Europe 1. Et on vous retrouve sur ce All Access avec Obispo Nouvelle Génération 2.0. Et surtout, on chante avec vous pour se dire au revoir. Ma Génération, votre single. À bientôt.
Les eaux dansaient contre les uns n'avaient pas peur des autres. On n'était pas chacun dans son coin. Tes problèmes étaient les nôtres. On chantait les mêmes refrains, les petites histoires du quotidien. On se prenait la main sans virtuel. On se disait qu'on s'aimait sans logiciel. Souviens-toi.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec Ajaccio, ville d'art et d'histoire, ville natale de Napoléon. Retrouvez tout le programme du bicentenaire de sa disparition sur ajaccio.fr.
C'est la fin de ce 18-20. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouverai avec un grand plaisir demain dès 18h avec la même équipe. Rémi Duprat à la réalisation, Naïma Benchemann qui m'aide à programmer cette émission, Thierry Desgéral à la rédaction en chef et Fabien Lecoeuvre pour ses anecdotes en paroles et musique. De beaux invités pour vous demain. Passez une bonne soirée, portez-vous bien. Voici le journal dans un instant de Sophie Tussaud avant Europe 1 Sport. À tout de suite.